Bonsoir à tous, en ce dimanche 11 décembre. Ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Jacob Cohen. Alors, Jacob Cohen est quelqu'un qui est d'origine juive séfarade, hein. Il est originaire du Maroc, il est de nationalité française. Il est non seulement d'origine juive, mais aussi de confession juive. Et donc, il s'est rendu célèbre par l'écriture de ce roman à clé qui s'appelle Le Printemps des Sayanim, et où Jacob Cohen dénonce les gens qu'il appelle des Sayanim au pluriel, donc des gens qui travailleraient pour l'État israélien partout dans le monde. Et il donne un certain nombre de noms. Et évidemment, c'est un ouvrage qui a suscité la polémique. Alors je lui laisse la parole pour cette conférence. Bonsoir à tous.
Bonsoir. Donc je vais me présenter en quelques minutes et après peut-être je me dévoilerai certainement pendant les questions. Donc je suis né dans une ville moyenne au Maroc. La particularité c'est qu'à l'époque j'ai grandi dans un quartier à 100% juif, donc très traditionnel, très, comment dire, dans les années 50 on n'avait pas de journaux, on n'avait pas de livres, on était relativement pauvre, on n'avait pas de connexion avec la culture. Et donc, je n'ai pas eu vraiment la possibilité d'apprendre, pas comme aujourd'hui, par exemple, un adolescent d'aujourd'hui. On n'avait même pas de bibliothèque au collège, par exemple. Et ce qui fait qu'à 16-17 ans, Je suis né en 1944, voilà. À 16-17 ans, on m'avait proposé d'entrer dans un mouvement sioniste clandestin. Donc ça fait frissonner parce que ça a le goût de l'aventure, etc. Et puis, on n'était pas nécessairement sioniste, mais enfin, quand on était juif, on avait de la sympathie pour Israël, voilà, parce que enfin, pour des tas de raisons qu'on peut comprendre, vu qu'on connaissait rien de la situation à l'époque. Et ça a été mon premier engagement politique, réellement politique. Et je m'étais très impliqué là-dedans, au point que j'avais des responsabilités dans le mouvement et que j'ai failli partir en Israël pour suivre cette carrière de militant. Enfin bon, cela ne s'est pas fait. J'ai eu la chance de connaître mai 68 à Paris. Je suis venu étudier ici, donc ça m'a remis un petit peu les idées en place. Enfin, j'ai commencé à m'ouvrir. J'ai lu un livre à l'époque qui s'appelle Le sionisme contre Israël de Nathan Weinstock, qui était c'est un livre monumental sur le sionisme, son caractère colonial. C'est un livre épuisé et je regrette. Et son auteur l'a, comment dire, l'a renié. Il est devenu pro-sioniste par la suite. Et je regrette que ce livre, par exemple, c'est un des ouvrages qui n'a pas été republié. Parce que c'est un ouvrage fondamental qui explique énormément de choses. Et puis, disons que j'étais plus ou moins intéressé par la politique, mais sans vraiment m'engager. Je crois que l'engagement avec le parti sioniste au Maroc m'a préservé de tout engagement réel, c'est-à-dire dans un parti. En allant au Canada, j'ai l'impression que. En fait, j'étais toujours un peu curieux, mais sans réel engagement. Je suis retourné au Maroc pour enseigner à la fac de 78 à 87. Et pour ceux qui connaissent un peu, enfin, qui ont une idée un peu du Maroc à l'époque, d'ailleurs, j'ai la nationalité marocaine et française, je l'ai acquise par la suite, dans les années 90. Donc j'ai enseigné, j'étais maître assistant à la fac, et à l'époque, sous le règne de Hassan II. Et il valait mieux ne pas trop militer. C'est-à-dire, on connaissait les lignes rouges qu'il ne fallait pas dépasser. Ce n'est même pas le Maroc actuel. Le Maroc actuel, en comparaison, il y a une explosion phénoménale des médias, des idées, etc. Bon, évidemment, grâce à Internet et à Facebook, mais à l'époque, c'était d'une pauvreté intellectuelle terrifiante, sur le plan culturel, politique. Bref, c'était vraiment une période où, comment dire, il y avait un écrivain algérien qui avait dit le soleil tue l'esprit, ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que le soleil a tué mon esprit à l'époque, c'est-à-dire je me laissais aller à une vie agréable. Voilà. Et c'est vraiment en arrivant en France, pour m'y installer définitivement en 1987, que j'ai commencé petit à petit à m'intéresser à la politique, au Proche-Orient, etc. Et donc, il y a eu peut-être quelques étapes importantes dans ce domaine. Par exemple, en 1993, lorsque Israël et l'OLP avaient signé les accords d'Oslo, je me souviens, j'y croyais beaucoup, même si j'étais assez critique d'Israël, mais sans un fondement historique, idéologique. Et j'y croyais, et puis j'avais rencontré quelqu'un, vous savez, des fois, il y a des rencontres qui font bouger des choses, je ne sais pas, pas nécessairement le hasard, mais qui tombaient à point nommé. J'avais rencontré une Libanaise qui n'y croyait pas du tout, j'étais surpris, et puis elle m'a expliqué les raisons, etc., historiquement, pourquoi les sionistes n'allaient pas respecter les accords. Et je me suis mis à lire. Bon, j'ai eu la chance de tomber par exemple sur un livre de Yoreh Sharak qui s'appelle Le racisme de l'État d'Israël, qui est un livre de 1973. Et là, je crois que ça a été vraiment une révélation. C'est-à-dire, j'ai découvert ce qu'était le régime sioniste, son cynisme, son agressivité, je veux dire, la façon, par exemple, dont le peuple palestinien a été expulsé. Là, et surtout, il y a une chose qui m'avait frappé. Moi, je connais Israël, disons, je suis allé une dizaine de fois parce que toute ma famille est partie du Maroc là-bas. Quand je dis famille, c'est-à-dire pratiquement, en fait, tous, les oncles, les tantes, les neveux, les cousins, etc. Mais ça, c'est une autre histoire, pourquoi ils sont partis en ce moment. Et c'est vrai que quand on se balade dans ce pays, c'est un pays neuf, c'est-à-dire, on a beau chercher, tout le monde s'extasie devant ce pays neuf, avec ses belles routes, ses villes, etc. Et on ne réalise pas ça jusqu'à ce qu'on le dise, que le système sioniste a eu recours non seulement à l'expulsion des Palestiniens, mais à l'éradication de tout ce qui représentait la Palestine, c'est-à-dire les villages, les fermes, les vergers, tout ce qui représente les mosquées, les églises, les cimetières. D'ailleurs, entre parenthèses, ça me fait rigoler quand les sionistes parlent du respect des lieux saints, etc. Parce que, même un auteur, un écrivain comme Yoram Kanyouk, peut-être que quelqu'un connaisse, qui a fait la guerre de libération, qui est un sioniste, mais enfin bon, il avait écrit sur 1948, il voyait des villages palestiniens d'une beauté extraordinaire, enfin je veux dire, verdoyants, avec plein d'arbres fruitiers, des cultures magnifiques. Mais il fallait absolument éradiquer cette culture. Il y a des détails comme ça qui choquent, et peut-être c'est probablement un de ces détails qui m'a marqué. Et puis, disons, j'ai évolué de plus en plus pas au début, peut-être pas vers un antisionisme. Encore que, enfin, j'expliquerai ce qu'est pour moi l'antisionisme. C'est-à-dire, bon, je peux le faire là tout de suite en une phrase, c'est-à-dire, pour moi, être antisioniste, enfin, de mon point de vue, c'est le fait de vouloir créer un État juif en chassant d'abord un peuple, donc il y a un péché originel, dans un milieu hostile, donc susceptible de produire des guerres permanentes et des tensions. Et en même temps, je ne crois pas que ça résoudra le problème de l'antisémitisme. Voilà, en gros. Et donc, au début, j'ai évolué, mais vraiment de manière assez lente, mais profonde, sérieuse, vers une critique de l'État d'Israël et vers un antisionisme. Bon, pour ceux qui connaissent mon blog, assez virulent, enfin bon, mais ça c'est un peu mon caractère, j'aime bien lancer des pics, être un peu virulent. Le printemps des Saïmes n'est pas mon premier roman. C'est vous dire que, en fait, je n'étais pas vraiment un auteur engagé parce que j'ai publié quatre romans de l'an 2000 à 2008 et qui étaient des vrais romans qui se passaient au Maroc, dont un roman policier, un roman d'espionnage, un roman féministe. Mais en même temps, il y avait quand même des indications politiques, sociologiques, d'analyse de la corruption, des luttes de classe, etc. Mais un jour, enfin, il y a peut-être 3-4 ans, j'avais lu deux livres qui étaient vraiment passionnants. Un livre de Gordon Thomas sur l'histoire du Mossad. Et, bon, et une des caractéristiques de ce livre qui était absolument fascinante, c'est la découverte de Tsayani. C'est-à-dire, Gordon Thomas, c'est un très grand spécialiste des services secrets, notamment britanniques et israéliens, et il avait interviewé tous les chefs du Mossad depuis la fin des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un vraiment. Et ils lui ont expliqué carrément que, bon, ils ont constitué ce corps des Sayanines, qui représente probablement quelques dizaines de milliers à travers le monde, qui sont répartis dans toutes les couches de la société, qu'on recrute en général dans des mouvements enfin, qui ne travaillent que pour Israël, par exemple, comme le Gnaï-Bris, la franc-maçonnerie internationale, ou bien l'UEJF, qu'est-ce que l'on sait. Enfin, en général, ils ont un réservoir de personnes qui peuvent travailler pour le Mossad absolument incroyable. Et puis, il y a le livre de Victor Ostrovsky, qui est un ancien agent du Mossad, et qui parlait justement des Sayanim à Londres. Et en France, je peux vous raconter une anecdote pour vous montrer le travail des Sayanim, qu'il a raconté d'ailleurs. En 1987-88, la France et l'Irak avaient signé un accord pour la centrale nucléaire, et l'Irak avait envoyé quelques dizaines de scientifiques nucléaires pour étudier à Sakhalin. Et le Mossad connaissance, enfin l'envoi, l'arrivée de ces scientifiques, avait besoin d'avoir leur dossier pour savoir sur qui on peut agir. Bon, un service secret normal, comme le KGB ou la CIA, enfin, il aurait eu besoin de plusieurs semaines pour obtenir ces dossiers, combien pour infiltrer l'administration, pour peut-être payer des gens. Le Mossad n'a pas besoin. Le Mossad, il a un Sayan à l'intérieur de sa clé. Voilà. Et donc, il l'appelle, il lui dit, on veut les dossiers. Donc, ils ont eu les dossiers en 24 heures. C'est ça la puissance du Mossad, en fait. C'est qu'il a des dizaines de milliers partout, dans les grands hôtels, dans les administrations, dans les médias. Moi, j'ai écrit quelque part dans une interview, qui est apparue sur le site Info-Palestine, l'affaire de Gilad Shalit. Enfin, ce sont les Sayanines qui ont moussé l'affaire. C'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, voilà un caporal dont le père était reçu par tout le gratin mondial, c'est-à-dire Sarkozy, Merkel, Obama, le secrétaire général de l'ONU, et pas à une reprise, à plusieurs reprises. Enfin, je veux dire, même un général américain, un général n'aurait pas bénéficié d'un tel traitement. Et ça, je pense que c'est le travail des CNI. Bon, comme je suis les médias juifs, bon, savoir ce qui se passe, etc.
Excusez-moi, monsieur Cohen, je vous interromps
Je
juste
vous
une
entends.
seconde. On a pas mal de bruit de frottement. Alors, je ne sais pas d'où ça peut venir, mais si vous avez une idée, est-ce que, voilà, pour éventuellement y faire quelque chose, parce que c'est vrai que on vous entend, hein, il n'y a pas de problème. Si vous pouvez pas modifier
Bon,
quoi que ce soit,
alors
c'est pas
je
grave.
vais tenir, le micro, le laisser contre moi. Bon, d'accord, ok.
Ouais, c'est nettement mieux. Je vous remercie,
Ok,
hein, désolé.
oui, je vois, d'accord. Donc, oui, je parlais des Sahénim, et bon, je pense que c'est, je l'ai dit, pas de problème. J'étais franc-maçon pendant 17 ans, et en 2002, le travail des Sayanim, c'est comment dire, de tisser une espèce de toile d'araignée pour couvrir tous les domaines. Et même le Grand Orient de France n'a pas échappé à cette toile d'araignée sioniste, si on peut dire. Donc je me souviens en 2002, il y avait des frères et juifs, francs-maçons, qui sont venus me voir parce que je m'appelais Jacob Cohen, donc ils pensaient que j'étais sioniste, bon, enfin, j'étais supposé l'être, et donc ils m'ont dit carrément, voilà, Israël traverse une mauvaise passe, donc nous allons créer une loge uniquement juive et sioniste, ce qui est déjà contraire comment dire, au statut du Grand Orient de France. Il ne faut pas faire de différence de race, de religion, etc. Et donc j'ai assisté, et je le raconte dans le printemps des Sayanines, justement, cette loge. Et Et en fait, je suis parti un peu, j'ai fait le lien entre les lectures sur les Sayanis et ce travail que je voyais autour de moi, c'est-à-dire sur Gilad Shalit, sur dans le milieu de la franc-maçonnerie, dans les médias, etc. Et j'ai eu l'idée de relier ces deux parties pour en faire un travail. Bon, évidemment, j'ai choisi enfin, c'est un récit romancé, si on peut dire, parce que je ne peux pas dire tel est Sayan. Je n'ai aucune preuve. Mais disons, j'ai essayé de retracer, enfin, de tracer le cadre dans lequel travaillent les Sayanim. Et la plupart des événements que je raconte dans ce livre, donc entre parenthèses, c'est mon premier vrai livre militant. Voilà. Ça c'est très important à dire parce que j'ai décidé, bon, à partir de ce livre, de faire un travail militant, hein, même dans mes romans, de faire des romans politiques. Et donc, tout ce que je raconte dans ce récit romancé, je préfère le dire comme ça, sont pratiques. C'est pratiquement la réalité, ou en tout cas, et c'est totalement véridique. C'est bon, il y a par exemple la soumission de SOS Racisme vis-à-vis de l'UEJF. Ça, c'est un fait absolument. Je vais vous donner un exemple. Enfin, bon, d'abord, pour ceux qui ont créé SOS Racisme, bon, on le sait, bon, c'est des juifs sionistes pour justement contrôler ce mouvement antiraciste qui commençait à prendre de l'ampleur dans les années 82-83. Il y a eu une énorme marche des beurs pour l'égalité fantastique. Donc, il a fallu la canaliser et on a créé SOS Racisme qui est soumise quasiment à l'UEJF. Bon. Et juste un détail, vous savez, que je cite dans le roman, mais qui est tout à fait vrai, c'est que tout président, en tout cas j'en connais au moins deux exemples, président de l'UEJF qui quitte sa présidence, il devient vice-président de SOS Racisme. Comme ça, par. Enfin, bon. C'est dire si. Bon, ça aussi, ça me tenait à cœur parce que j'aime bien, d'ailleurs, j'ai appelé mon blog Démanipulation, parce que j'aime bien traquer toutes les manipulations médiatiques. Et disons, j'ai la chance de connaître assez bien la politique israélienne, la mentalité, et puis les médias juifs, et en même temps le reste. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur d'autres sur ce livre? Bon, il y a par exemple, il y a eu des éléments. Bon, il y a la plupart des personnages, pour ceux qui ont lu le livre, la plupart des personnages existent réellement. J'ai changé le nom de manière un peu ironique pour beaucoup. Ça fait partie un peu de certaines dérision, voilà, si on peut parler comme ça, parce que j'ai pas beaucoup vraiment de respect, d'admiration pour ces gens-là. Je crois que j'ai tout dit, donc voilà, je suis ouvert aux questions.
Bien, merci beaucoup Jacob pour cette première discussion, ce premier entretien, pardon, cette première introduction, pardon. Donc je voulais savoir, peut-être sur SOS Racisme, vous disiez que l'UEJF et SOS Racisme avaient des liens. Alors je crois qu'un des personnes qui a cette double casquette, enfin la personne la plus connue bien sûr c'est Julien Drey, mais une des personnes je crois qui a été secrétaire à la fois générale des SOS Racisme et des étudiants juifs de France, c'est François Zimeret si je me souviens bien. Est-ce que vous pouvez confirmer cela?
À propos de François Zimeret, je ne sais pas, parce que moi, j'étais pas en France à l'époque où SOS Racisme a été créé. Donc, en arrivant ici en 87, je crois que j'avais pas mal de problèmes en tant qu'étranger, des problèmes de travail, de logement, etc. Donc, il m'a fallu peut-être quelques années pour m'adapter à la situation en France. Et donc, je sais que il y avait Julien Drey, il y avait un autre dont j'ai oublié le nom. Par contre, François Zimeret, je ne sais pas, je peux pas confirmer pour SOS Racisme. Par contre, ce que je peux dire, c'est que François Zimeret, je l'ai cité dans le Printemps des Sayanis. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que dans les médias juifs, il intervenait énormément. C'était un parlementaire européen dont le but, c'était quasiment un sacerdoce pour lui. Il fallait emmener des parlementaires européens en Israël une fois par mois, une fois tous les 2 mois, pour leur montrer, soi-disant, entre guillemets, la réalité israélienne. Il faisait un travail énorme pour Israël. Et je le cite dans le roman sous le nom de François Simagré, d'ailleurs. Et il a été, bon, même le Parti socialiste, dont on connaît quasiment les liens avec Israël, il y a quelques années, je pense il y a 4-5 ans, les dernières élections européennes, le Parti socialiste ne l'a pas représenté sur les listes du Parti socialiste au Parlement européen. Parce que c'était, ben, il était tellement pro-sioniste que ça devenait gênant. Mais il a été quand même récompensé par Sarkozy, qui l'a nommé ambassadeur de France pour les droits de l'homme.
Merci. Donc je rappelle aux auditeurs qui souhaiteraient poser des questions de me les transmettre et puis ensuite soit je leur laisserai la parole via micro s'ils ont un micro et puis ou alors je les relaierai moi-même. Donc je laisse la parole à Anthony dans un premier temps.
Oui, juste une petite question. J'aurais aimé savoir quelle a été la réaction de membres de la communauté juive, s'il y en a eu, à propos de votre livre. Est-ce que vous avez reçu des menaces, par exemple? Est-ce que vous vous êtes fait insulter? Est-ce que plutôt on vous, comment dire, on parle pas trop justement de vous pour pas, parce que ça peut être gênant. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit panorama, puisque le livre est sorti depuis un petit moment maintenant, donc je pense que vous pouvez nous dire un peu ce que ça a donné comme réaction.
Alors, à ma connaissance, il y a eu le complot du silence. C'est-à-dire que, bon, non, on n'a ni critique, ni, enfin, en tout cas, je n'ai pas vu vraiment de critique dans les médias juifs ou dans les newsletters, etc., auxquels je suis abonné, que je connais assez bien. Contre, des insultes, j'en ai eu pas mal. Des menaces, non. Ou en tout cas, elles ne me sont pas parvenues. Mais des insultes, elles me sont parvenues, soit directement sur mes mails. Enfin, on m'a même. Certains s'étonnaient que. Est-ce que c'était mon vrai nom, Cohen? Ou bien ils me suggéraient de changer de nom, parce que porter ce nom-là, c'est quand même pas agréable. Mais en général, voilà, je ne réponds jamais aux insultes. C'est-à-dire, voilà, j'ai pas envie d'entrer dans ce jeu. On m'a traité de toutes sortes de noms, voilà. Paranoïaque, antisémite, enfin toutes sortes de choses. Mais voilà.
Merci de votre réponse, Monsieur Cohen. Alors, avant de laisser la parole à des auditeurs, puisque évidemment votre exposé, votre introduction suscite beaucoup de questions. Alors, j'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle école israélienne, enfin de l'école historique qui comprend par exemple Simon Epstein ou bien Shlomo Sand et qui sont critiques vis-à-vis du judaïsme et du sionisme, enfin du moins de certains éléments du sionisme et du judaïsme.
Bon, je crois que quand on connaît la société israélienne, ce que je connais un petit peu, il y a un tel, c'est énormément courageux de leur part. Il faut un courage extraordinaire pour sortir du consensus général. Et quand je vois par exemple certains militaires refuser d'aller servir dans les colonies, ou bien des écrivains prendre, des universitaires prendre des positions réellement courageuse, réellement lucide. Vous savez, moi, des écrivains comme Amos Oz et David Grossman, moi, ils me font rigoler. Pour moi, c'est pratiquement des agents du système sioniste pour montrer au monde qu'on a des gens pacifistes, qui veulent la paix, etc. En fait, ils servent plus à donner une belle image d'Israël ou du système sioniste qu'autre chose. Par contre, les vrais, c'est comme Ilan Pappé, Michel Warchavski, Shlomo Sand, eux, ils ont un courage extraordinaire parce que c'est un pays qui vit en autarcie idéologique, psychologique. C'est vraiment une petite société comme ça qui a déjà une langue à part et qui développe un nationalisme vraiment à fleur de peau. Donc, déjà se mettre, se dresser contre ce consensus, c'est prendre un risque énorme parce qu'on est considéré comme traître, et ça c'est la plus grande catastrophe qui puisse arriver à quelqu'un. Donc, c'est pour ça, je crois qu'il y a très peu de gens, c'est des gens de qualité, certes, Mais il y a, c'est pour une société d'une telle importance, d'une telle avancée, parce que c'est, Israël est quand même une société très évoluée, enfin, dans le sens où il y a des journaux. C'est vrai que les journaux sont libres, sont bien informés, etc. Il y a des débats énormes, mais c'est assez canalisé comme système. Ça donne l'illusion d'une grande liberté, enfin, d'une liberté, mais en fait, tout est canalisé pour aider le système sioniste. Et il y a vraiment, moi je dirais presque un lavage du cerveau, c'est-à-dire comme dans tout pays extrêmement nationaliste, proche du fascisme d'ailleurs, dès le jeune âge, et sortir de ce système. Donc je voulais dire, c'est très courageux, et c'est pour ça qu'il y en a eu très peu. Mais par contre, ils ont un poids extraordinaire. C'est-à-dire, Shlomo Sand, je crois que, ou Michel Warshawski, des types comme eux, ils font un travail je sais pas moi, de centaines de personnes. C'est vraiment extraordinaire. Ou comme par exemple, Stéphane Hessel. Voilà que. Donc, c'est. Pour moi, c'est très important. Mais encore, moi, enfin, je vais vous dire une conviction personnelle. Je ne crois pas qu'ils aient une grande influence en Israël. Voilà. C'est-à-dire, on a affaire à un système qui vraiment bloque toutes les issues. Il sait se défendre. Et même quand il ne sait plus, d'ailleurs, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité israélienne, c'est un système qui devient de plus en plus fasciste. C'est-à-dire, on adopte des lois pour contrer les ONG qui reçoivent des subventions d'extérieur. Il y a des lois racistes, anti-arabes, ne pas louer aux Arabes, etc. Donc, c'est un système qui a, même sa couverture, enfin, sa couverture libérale, démocratique, est en train de craquer parce que il y a un. C'est un système qui va vers une plus grande fascisation. Et donc je reviens à un type comme Shlomo Sand, il est contré. C'est-à-dire en Israël, il n'a pas beaucoup de. Comment dire? Il n'aura pas une grande influence, à mon avis. Voilà.
Très bien, merci beaucoup de votre réponse. Alors, il y avait une question de Robin Deville sur Gilad Atzmon. Alors, je vais lui laisser la parole.
Donc bonsoir Monsieur Cohen, je voulais vous demander ce que vous pensez du travail de Gilad Atzmon qui va jusqu'à critiquer l'antisionisme juif avec par exemple des gens comme Roni Broman où selon lui ils font le jeu du sionisme.
Enfin, moi, je suis. Enfin, il y a des gens qui poussent peut-être le bouchon un peu loin. Enfin, je n'ai pas envie de juger. Je crois que à partir du moment, enfin, moi j'ai beaucoup de respect pour Roni Broman, même si peut-être je ne partage pas à 100% sa vision. Enfin, la question, mais je partage, enfin, en très gros, sa vision. Donc, je pense qu'il y a des gens qui font d'excellents travails, même, enfin, même et surtout parmi les juifs qui sont antisionistes. Pour revenir, enfin, je ne sais pas si j'ai très bien. Parce que vous avez parlé, je crois que vous avez parlé des. Je ne sais pas si vous avez parlé des juifs religieux ou antisionistes ou seulement des juifs antisionistes. Parce qu'il y a les deux tendances. Il y a des juifs religieux antisionistes, et je vous renverrai à un livre de Yaakov Rabkin. Qui a écrit la Torah contre Israël, qui est un professeur d'université à Montréal, et qui est un livre absolument remarquable. C'est un religieux que j'ai rencontré au Maroc, et qui porte la kippa, la calotte juive, et qui démontre, enfin bon, sur les thèses, d'après les textes religieux, etc., que le sionisme est contraire, fondamentalement déjà, aux règles, à la tradition juive. Donc le sionisme serait déjà une atteinte. À la tradition juive. Et d'ailleurs, moi qui viens du Maroc, je veux dire, dans les années 50, les rabbins nous mettaient en garde contre les sionistes. C'est pas, vous savez, l'idéologie sioniste était minoritaire jusqu'en 1948 dans les communautés, etc. Donc, s'il vous plaît, reprécisez-moi votre question. Merci.
Oui, en gros, la théorie de Gilad Atzmon est que les antisionistes juifs ont tendance à dire que le sionisme se résume à un fait colonial. Et selon lui, le sionisme ne se résumerait pas à un fait colonial, mais serait carrément un projet de domination tribale. Voilà.
Je laisse. C'est une interprétation comme une autre. Moi, personnellement, je crois que c'est une. Vous savez, déjà, le fait de dire colonial, c'est qu'il y a une domination. Maintenant, je ne crois pas que dans le projet sioniste de base, au départ, il y ait eu une volonté une volonté de domination. C'est un fait colonial. Personnellement, enfin, voilà, je le crois, j'assume cette position, et je crois que, et d'ailleurs, il apparaît de plus en plus pour ce qu'il est, c'est-à-dire son caractère colonial apparaît de plus en plus, voilà, c'est-à-dire l'occupation, la colonisation, la domination, l'apartheid, etc. Bon. Est-ce une domination tribale? Personnellement, je ne crois pas, mais maintenant, chacun peut avoir une vision différente, mais personnellement, je ne pense pas. Je crois pas que, à ma connaissance, je n'ai jamais lu un texte, disons, de sioniste historique ou dans la théorie sioniste qui puisse me faire admettre cette idée. Voilà.
Merci de votre réponse, Jacob Cohen. Je laisse la parole à Mister Mayonnaise maintenant.
Bonsoir, Monsieur Cohen. J'ai été ravi d'écouter votre intervention. Et j'ai une question qui porte sur les goyim philosémites, j'ai envie de dire. Que pensez-vous de ces gens-là? Pourquoi font-ils allégeance au sionisme et à Israël? Est-ce par sincérité? Je pense notamment à Monsieur Manuel Valls. Est-ce par démagogie opportuniste, notamment Messieurs Peillon et Millière? Ou est-ce qu'ils ont des choses à se reprocher? Et là, je vise clairement Monsieur Philippe Valls et Monsieur Mitterrand. Je vous remercie d'avance pour la réponse.
Bon, je crois qu'il y a quelques éléments qui font, enfin, pour lesquels je me montrerai d'accord avec votre analyse. Il y a d'abord un élément, peut-être deux, qui sont fondamentaux. Il y a un qui est la Shoah et la culpabilisation de l'Occident européen. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'Europe a laissé les Juifs allemands et les autres. Ça, y a pas de doute. Par exemple, en 1938, Hitler a voulu se débarrasser de ces Juifs. Il y a eu une réunion en France, à Aix-les-Bains, je crois, en 1938. Et aucun, à part deux petits pays du nord de l'Europe, le Danemark et la Norvège, je crois, aucun pays n'en a voulu. Le ministre des Affaires étrangères français avait écrit à son premier ministre pour lui dire: on a gagné, on ne reçoit aucun juif. Donc il y a quand même un sentiment de puis ils n'ont jamais bombardé les camps de concentration. Enfin bon, même l'Amérique qui a renvoyé un bateau avec 1000 personnes en 1940. Les a renvoyés des côtes américaines vers la Belgique occupée par les Allemands. Et donc, il y a quand même un sentiment de culpabilisation. Bon. Deuxièmement, il faut pas oublier une chose, que quand Israël a été créé en 1948, la France, par exemple, était en guerre contre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Donc, ils pensaient que on va se venger, enfin, en tout cas, on va s'allier avec cet État pour mater les Arabes. Et je vais vous donner une illustration. En 1956, Nasser a nationalisé le canal de Suez. Et il y a eu tout de suite après une expédition qu'on appelle l'expédition tripartite, c'est-à-dire France, une expédition armée. Hein, donc, France, Israël, Grande-Bretagne, pour briser le régime de Nasser. Donc Israël il est devenu un allié de poids dans ce sens-là, déjà dans les années 50. Bon. Et plus tard, il est considéré comme un allié sur un plan uniquement stratégique, c'est-à-dire que grâce à Israël, on peut maîtriser l'évolution des pays arabes. Bon. L'Égypte, on l'a cassé, le nationalisme arabe, on l'a cassé. La plupart des pays arabes sont soumis quasiment à l'axe Amérique-Europe-Israël. Et donc, mais je viens à un troisième élément pour répondre à votre question plus précisément. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'esprit des Européens a été façonné de manière, c'est extraordinaire, par l'idéologie sioniste. C'est-à-dire que jusque dans les années 60, une anecdote, si un jour vous regardez en juin 67, Israël attaque les pays arabes, occupe des territoires, et qu'est-ce qui se passe en France? Il y a des centaines de milliers de manifestants, dont la gauche française, qui soutient Israël, qui manifeste, parce que le régime sioniste a fait croire qu'ils étaient sur le point de subir un génocide comme la Shoah, et là, ça a été vraiment un appui extraordinaire. Moi, je me souviens, par exemple, quand j'allais en Israël dans les années, fin des années 60, début des années 70, toute la jeunesse, une grande partie de la jeunesse européenne, c'est-à-dire par dizaines de milliers, ils allaient dans les kibboutzim israéliens, travailler 6 mois, 1 an, des volontaires, alors qu'Israël venait d'occuper des pays arabes. C'est dire à quel point, il y a eu le film Exodus, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, donc, qui a imprimé dans l'inconscient européen l'histoire de 48 vue par les sionistes. Donc, ce n'est pas toujours par calcul. Ce sont des gens qui croient vraiment à cet État démocratique. Enfin, je mets toujours en guillemets, bien sûr, cet État démocratique, ce petit pays qui veut vivre en paix, etc. Et on a du mal à s'en sortir. Bon, et c'est vrai. Bon, mais aujourd'hui, le vent est en train de tourner. Bien sûr, ça va prendre encore du temps. Mais les choses changent. Donc, c'est un peu une génération ancienne qui a gardé ses liens très forts et qui explique cette fraternisation entre des gens comme Manuel Valls, etc., avec Israël.
Merci de cette réponse, Jacob. Donc, je vais laisser la parole à SBI, un auditeur.
Bonjour, Monsieur Cohen. Enchanté. Alors, ma question porte sur, au début de votre allocution, vous avez parlé des créations de loges purement juives. Alors, je voulais savoir, dans un premier temps, comment pouvait-elle être reconnue, puisque vous avez dit, même au début, que c'était normalement impossible, puisqu'on ne pouvait pas de loges purement au niveau de la race et de la religion. Donc, comment pouvait-elle être reconnue? Et sont-elles encore actives? Et dans quelle proportion est-elle dans la formation? Voilà, merci.
Excusez-moi, j'ai mal saisi votre question. Est-ce que vous voulez... Je suis désolé.
Alors oui, excusez-moi, c'est peut-être un petit peu un peu trop vite. Je disais donc que vous aviez parlé des créations de loges purement juives. Donc, je voulais savoir comment pouvait-elle être reconnue. Et ensuite, je voulais savoir si elles étaient encore actives de nos jours, et si oui, dans quelle proportion pouvaient-elles influer sur la franc-maçonnerie.
Ok. Non, d'abord, il y a une seule loge juive, judéo, moi je l'appelle judéo-sioniste, une seule. Bon. Alors, évidemment, quand ils ont déposé, parce qu'on dépose une statue quand on crée une loge, on ne va pas dire au Grand Orient, voilà, on va déposer une loge uniquement réservée aux juifs. Non, non, ils vont dire une loge ouverte à tout le monde. D'ailleurs, ils l'appellent l'étoile de la paix. C'est-à-dire, en fait, nous avons une mission pour la compréhension entre les peuples, etc. Vous savez, les sionistes, ils savent, quand il s'agit de propagande, ils n'utilisent que des termes pacifiques, de paix, de fraternité, etc. etc. Bon. Et par contre, moi, j'ai insisté à ce que, en termes maçonniques, on dit l'allumage des feux, c'est-à-dire la création administrative de cette loge. En général, quand une loge se crée, bon, elle se fait dans une certaine discrétion. Il y a 10-15 personnes, 20 maximum, donc ça se fait dans un petit temple. La création de cette loge a été faite dans le plus grand temple de la rue Cadet, du Grand Orient de France, c'est-à-dire qui contient 350 personnes. Bon, il n'y avait pas 350 personnes, mais il y avait bien au moins 150 personnes. Et des hauts gradés, on les reconnaît à leur tablier, etc. etc. Bon. Donc, elle a bénéficié plus ou moins d'une sympathie de quelques dirigeants. Bon. Ceci étant dit, c'est une loge qui est toujours active et elle fait son petit bonhomme de chemin de quelle manière? D'abord, elle se réunit deux fois par mois. Il y a des frères qui, ou des sœurs qui rendent visite. Comme je raconte dans le printemps des Sayanim, il y a les conférences qu'on appelle les planches sont toujours orientées dans le sens favorable à Israël. On invite des gens toujours favorables à Israël. Et il y a 5 minutes d'actualité, etc. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que ils organisent un voyage en Israël. Ils invitent les frères et les sœurs à participer. C'est un voyage qui est encadré par des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères israélien. Et j'ai vu les résultats chez certaines personnes qui sont allées. C'est incroyable. Voilà. Donc, il y a 5-6 ans, il y avait quand même 150 personnes qui y allaient par an. Bon, peut-être aujourd'hui plus, certainement. Donc, c'est un travail de sape, voilà, qui se fait dans ce sens-là. Bon. Je ne crois pas, ceci dit, je ne crois pas qu'ils aient une influence au niveau du Grand Orient. Voilà, ça c'est, personnellement, je ne crois pas du tout. Voilà. Ils font leur petit travail comme ça, presque en cachette, mais ça ne touche pas vraiment D'ailleurs, la plupart des. Enfin, ceux que je connais en tout cas, des frères du Grand Orient, ignorent totalement l'existence de cette loge.
Merci.
Merci, Monsieur Cohen, pour cette réponse. Alors, je vais relayer une question d'un auditeur. Pensez-vous que l'idéologie sioniste et l'idéologie mondialiste ont des liens de connivence, voire même peut-être qu'ils sont les revers, enfin, les deux mêmes faces de la même médaille, dont Jacques Attali pourrait être un représentant? Enfin, donc une question entre par rapport au lien entre l'idéologie sioniste et l'idéologie mondialiste. Voilà.
Bon, personnellement, à mon niveau, je ne connais pas ces liens. Mais il est certain qu'ils doivent exister. Parce que l'État d'Israël comment dire, est une pièce importante dans l'échiquier mondial, en tout cas pour l'Occident et pour l'Amérique. C'est comme aux échecs, c'est presque, enfin, ça vaut une pièce, comme une tour ou même une reine. Parce que quand on voit le Moyen-Orient n'aurait pas été ce qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas Israël. Enfin, moi, je me souviens du grand vent du nationalisme arabe qui voulait emporter le monde arabe, l'unité. Vous savez, quand on parle aujourd'hui de la laïcité, enfin de la démocratie, c'est terrible. Dans les années 50, les pays arabes voulaient tout ça. Voulaient des parlements, voulaient des régimes laïcs, voulaient des régimes socialistes, etc. etc. Et Israël a joué un rôle extraordinaire, avec la complicité, bien sûr, de l'Occident, de certains milieux qui l'ont fourni en armes, en argent, en moyens, en soutien, pour mener à bien leur politique. C'est par exemple. Je veux dire, la destruction de la centrale nucléaire d'Irak, c'était une manifestation qui n'a jamais été condamnée par l'Occident, d'ailleurs, enfin, bon, peut-être du bout des lèvres. Donc, qui est une manifestation de la domination impérialiste occidentale par l'intermédiaire d'Israël, et cet Occident qui a fourni et qui continue d'ailleurs à fermer les yeux sur les projets de domination. Vous savez, les Israéliens n'ont pas du tout renoncé. Enfin, ils parlent de négociation, mais c'est du pipeau. C'est-à-dire qu'en fait, ils visent toujours une place forte, une domination. Et d'ailleurs, la soumission de certains pays arabes, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., anciennement l'Égypte de Moubarak et la Tunisie, en sont la preuve. Il y a certainement, donc pour résumer à mon niveau, je ne peux pas savoir, mais certainement il y a des liens vraiment très très forts entre des cercles dirigeants. Il y a un auteur américain qui avait parlé d'état profond, mais là j'ai pas le temps de j'aurais pas le temps de développer, entre l'état profond en Amérique et des intérêts israéliens.
Merci de votre réponse, Jacob. Alors, je laisse la parole à ADN.
Oui, bonsoir, Monsieur Cohen. Donc, merci pour votre conférence. Donc, je vais vous donner mon point de vue à moi et vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Donc, avant tout, j'ai une petite question. Information pour moi, C'est une sorte de série parce que s'il donne quelques informations intéressantes, ils vont le faire monter en degré et c'est sa façon d'être récompensé. Donc ça, c'est ma première question. Ensuite, vous dites que vous êtes plus franc-maçon, mais moi j'ai entendu que la franc-maçonnerie, on ne peut pas la quitter déjà. On est considéré comme endormi ou je sais pas quoi. Et on apprend des choses à l'intérieur qu'on n'a pas le droit de divulguer à l'extérieur. Donc vous avez sûrement des informations que vous n'osez pas et que vous n'avez pas le droit de divulguer, sinon on vous retrouve et on fait la peau, comme on dit. Et la dernière chose, alors ça c'est pour moi c'est le plus important, c'est vous. Et ça, c'est pas, vous n'êtes pas le premier à parler de ça, c'est l'éloge soi-disant 100% juif. Bah, déjà, ça pour moi, c'est une hypocrisie parce que, déjà, à la base, un franc-maçon, dès qu'il monte un peu en grade, moi je suis pas franc-maçon, mais j'ai beaucoup étudié ça, il suffit qu'il monte un peu en grade et tout de suite, c'est la défense d'Israël, qu'il soit loge juif ou pas. Hein. Au final, on a des gens qui sont athées ou qui sont chrétiens qui finissent plus juifs et plus pro-israéliens que pro-français. Pourquoi? Parce que ça leur apporte du pouvoir, de l'argent, etc., du prestige et voilà. Donc les donc pour résumer, donc les loges judéo-sionistes pour moi c'est une hypocrisie parce qu'à la base tout franc-maçon est forcément sioniste et même s'il n'y croit pas, il le fait quand même pour son intérêt personnel. Belle voiture, belle nana, etc. On va pas rentrer dans les détails. Et donc ça c'est la première chose. Et donc l'autre question, ça c'est ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce qu'un franc-maçon est forcément un sélénime vu que voilà ça peut c'est tout dans son intérêt. Voilà, merci monsieur.
Bon, écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes qui circulent autour de la franc-maçonnerie. Je regrette. Voilà. Bon. Maintenant, on peut penser ce qu'on veut. Un franc-maçon n'est pas du tout un saïan, mais loin de là. Écoutez, j'ai fréquenté des tas. Vous savez, non seulement j'étais au Grand Orient, mais ce que j'appelle, j'ai voyagé beaucoup dans d'autres obédiences. Les francs-maçons, ils n'en ont rien à foutre d'Israël. Mais c'est le dernier de leurs soucis, c'est tout. Il se trouve qu'au Grand Orient, il y a une loge judéo-sioniste qui s'est créée, mais les autres, ça ne les intéresse pas. C'est un problème qui. Et ils ne sont pas pro-israéliens ni anti. Enfin, je veux dire, ils sont un peu. Ils représentent un petit peu comme le reste de la société française. Enfin, moi, je vous donne mon opinion franchement. Je ne cache rien pour vous dire, voilà, parce que on se fait beaucoup d'idées, mais en fait, tout ce qui se passe en franc-maçonnerie, on peut pratiquement le lire, enfin, là, il suffit d'ouvrir des livres, il n'y a pas grand-chose à découvrir. J'ai connu des gens très haut placés, deux ou trois personnes, qui m'ont raconté ce qu'elles ne voyaient pas grand-chose. Bon, mais ça, je ne peux pas empêcher les fantasmes de circuler et de fleurir. Bon, ça, ce n'est pas mon problème. Mais on peut me croire ou ne pas me croire. Voilà. Mais moi, personnellement, je n'ai rien à cacher. Bon. On peut quitter la franc-maçonnerie. Il y a des tas de gens qui quittent la franc-maçonnerie. Moi, j'ai quitté pour des raisons, comment dire, personnelles. C'est-à-dire, je ne voulais pas quitter. Mais comme dans tout groupement humain, il y a des luttes de pouvoir, des luttes d'influence, il y a des clans. Une loge, c'est 20 à 40 personnes, 50, et il y a des postes, il y a des petits postes, vénérables, maîtres, premiers surveillants, etc. Donc les gens se réunissent par affinité, et finissent par créer des clans, et on se tire dans les pattes. Ce sont des hommes comme les autres, voilà, comme une cellule d'un parti socialiste, etc. Bon, donc. Vraiment, alors croire, enfin, moi je réfute, mais ceci dit, on peut penser ce qu'on veut. Je donne mon opinion, croire que le Grand Orient, ou la Grande Loge de France, ou la Grande Loge féminine de France, par exemple, pour citer les grandes obédiences, sont liées plus ou moins au sionisme, à Israël, enfin, moi personnellement, cette idée me fait presque rigoler. Alors, je suis désolé, et c'est pas du tout pour refuser de répondre. Je vous assure que j'essaie d'être le plus sincère possible.
Merci pour votre réponse. Alors, je vais à nouveau relayer une question d'un auditeur. Alors, vous avez cité le livre Le racisme de l'État d'Israël, donc de l'auteur Israël Schack. Avez-vous lu le livre Histoire juive, religion juive du même auteur, qui est très critique envers le Talmud, qui est le pilier du judaïsme? Et si oui, qu'en pensez-vous?
Non, on m'en a parlé, mais je ne l'ai pas lu malheureusement. D'ailleurs, on m'en a parlé très récemment. Voilà, je ne savais pas que. Voilà, c'est une de mes lacunes. Probablement, je vais essayer de, comment dire, de la combler prochainement. Il y a tellement de choses à faire, tellement de. C'est vrai que le militantisme prend énormément de temps, bah, sur Internet, sur Facebook, sur l'écriture. Mais ça fait pas longtemps que j'ai entendu parler de ce livre, et donc je ne peux pas en parler malheureusement.
Je vais me permettre d'élargir la question. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce que vous pensez du Talmud? Est-ce que vous l'avez étudié? Bah, votre avis là-dessus?
Alors, comme j'ai dit, j'étais dans une société traditionnelle, etc. Et j'ai étudié un peu de Talmud. Bon, le Talmud, il y a une trentaine de volumes, dont chaque volume fait. C'est un gros, c'est des gros livres. Bon, le Talmud, en tout cas pour ce que je sais, c'est un texte écrit en araméen. Ce sont comment dire, des controverses entre sages, entre juristes, entre rabbins ou sociologues, si on peut dire, qui a été écrit au 1er siècle et qui traite, c'est par titre, c'est-à-dire chaque volume a un titre. C'est par exemple traité sur les relations conjugales, traité sur le divorce, traité sur je sais pas moi, la vente, enfin, le commerce. Donc ce sont des traités qui gèrent, enfin qui définissent, et souvent ils ne donnent pas la solution en fait. C'est, je sais pas si vous connaissez le terme de pile-poule, c'est-à-dire en fait c'est moins le résultat, c'est-à-dire les lois, il n'y a pas vraiment enfin, des fois on n'arrive pas vraiment à des lois, mais c'est surtout des controverses, donc des études très très ardues, voilà. Et je sais que de temps en temps, enfin, je vois ici ou là des propos comme quoi dans le Talmud il y aurait comment dire, des jugements racistes contre les goyim, etc., contre les non-juifs. Alors moi j'ai discuté justement avec quelqu'un pas plus tard qu'hier et je lui ai dit on n'a pas besoin de chercher dans le Talmud parce que déjà le Talmud, je sais pas si c'est très difficile d'y trouver ce genre de référence, mais enfin après tout il y a peut-être des gens qui sont capables de les trouver. Ça, il suffit d'ouvrir l'Ancien Testament ou d'un livre de prière et on trouve, c'est vrai que c'est une religion où il y a énormément de passages raciste contre les goyim, la loi sur la pureté, etc., etc.
Merci de votre réponse, Jacob. Je laisse la parole à Pierrick désormais.
Bonsoir, Monsieur Cohen. Enchanté de vous entendre ce soir. J'aurais une question à propos donc dans votre livre, à propos de votre livre Le Printemps des Sayanim. Vous identifiez, il me semble, Éric Zemmour sous le pseudonyme d'Éric Jéthaud, il me semble. Et je me demandais, c'est vrai que c'est un personnage qui peut paraître assez trompeur, et ça m'a assez étonné de le voir mentionné quand même et présenté comme une sorte de gros bonnet de quelqu'un d'assez influent dans les milieux sionistes. Donc, que pensez-vous de ce personnage? Pouvez-vous nous en dire plus? Et que pensez-vous en général? Pensez-vous qu'il y ait une instrumentalisation? Et qu'en pensez-vous de cette instrumentalisation, s'il y en a, du nationalisme ou des idées plus grossièrement, comme on peut plus grossièrement appeler réactionnaires dans les milieux de gauche? Enfin, en gros, de l'idéologie Éric Zemmour, pensez-vous que le sionisme instrumentalise leur idéologie?
Bon, je reconnais avoir fait une erreur, mais alors, moi j'ai fait une erreur d'appréciation à propos d'Éric Zemmour. Éric Zemmour a beaucoup évolué. C'est-à-dire, au moment où j'écrivais, bon, ça remonte quand même à 2 ans et demi, qu'à l'époque, Éric Zemmour n'avait pas les positions qu'il défend aujourd'hui. À l'époque, il me semblait, maintenant, voilà, il me semblait qu'il était plus proche des thèses sionistes. Voilà. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans le livre. Mais il est vrai que, vu les positions Même il prend une certaine distance par rapport à l'idéologie sioniste, à Israël, etc. Et donc, concernant ce personnage, je crois le fait de l'avoir mis, enfin bon, je ne lui ai pas donné un grand rôle, enfin, mais en même temps, je reconnais que ça n'a pas été. Enfin, c'est-à-dire, au moment où j'ai écrit, je crois, ou peut-être je me suis-je trompé, c'est tout. Et là, je reconnaîtrai mon erreur et je m'en excuse. Mais à l'époque où j'ai écrit, où j'ai commencé à placer les personnages, etc., je crois qu'à l'époque, il me semblait qu'il défendait plus Israël qu'il ne le fait aujourd'hui. Mais il faut dire aussi que 2 ans et demi ou 3 ans se sont passés et je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup, enfin, il a assez évolué dans ce domaine-là. Maintenant, est-ce que je ne crois pas. Je crois pas qu'il soit manipulé. Je pense pas que ce soit quelqu'un de manipulable à ce niveau-là. Parce que, enfin, en tout cas, au niveau, par exemple, par le Mossad ou par les services sionistes, pour le manipuler, personnellement, je ne crois pas. Je pense que c'est quelqu'un d'indépendant, qui a une grande force de conviction, une grande force de caractère. Et d'ailleurs, il a beaucoup de courage à exprimer les idées qu'il exprime et qu'il défend.
Merci Jacob. Merci de cette réponse. Je laisse la parole désormais à Denis.
Bonsoir monsieur, j'ai quelques remarques. Vous avez parlé des rabbins qui étaient autrefois opposés au sionisme et vous n'avez parlé que de cet aspect-là du judaïsme par rapport au sionisme. Sans duplicité, vous induisez peut-être le public en erreur dans la mesure où le sionisme a toujours été armé sur les plans spirituels, moraux et intellectuels par son racisme violent et sa duplicité promue comme mode de combat. Hein, ces deux aspects, deux armes qui sont inhérentes au Talmud, hein, c'est-à-dire au même judaïsme de ces rabbins autrefois hostiles au sionisme. Je pense que, autant que je sache, le Talmud n'est pas que des controverses, mais ce sont aussi, votre ami vous a peut-être présenté une version délavée du Talmud, ce sont aussi des appels au meurtre. Hein. Et votre comparaison avec la Bible, d'ailleurs, est intéressante. Mais je pense que l'Ancien Testament reprend des positions qui étaient circonstancielles et historiques, alors que le Talmud fait des recommandations, donne même des ordres racistes et violents qui, eux, sont intemporels. Autre remarque, vous avez reproché aux Européens de l'entre-deux-guerres de n'avoir pas protégé ou aidé les Juifs ou pas de manière suffisante. J'ai sous les yeux le site internet de Naturae Carta, que vous connaissez peut-être, et qui pose 10 questions aux sionistes. La première question est celle de savoir pourquoi les responsables ou les chefs sionistes de l'époque ont refusé les propositions qu'on leur a faites en 1941 et en 1942. Que les nazis, hein, leur ont fait de permettre aux juifs d'Europe de l'Est, juifs allemands, juifs réfugiés en France, de quitter l'Europe contre rançon. Je pense qu'il est bon de le partager. Les responsabilités sont partagées d'une façon qu'on ne présente pas dans les médias, l'éducation nationale, c'est bon de le rappeler. Vous avez aussi regretté que les Américains n'eussent pas bombardé les camps de concentration où des Juifs étaient enfermés. Je n'ai jamais été bombardé, hein, mais j'imagine mal que des bombes américaines ou autres eussent protégé de la mort des habitants de camps de concentration. Hein. On se souvient très bien de l'imprécision des bombardements de l'époque. Les choses, malheureusement, d'ailleurs, n'ont guère changé, malgré la propagande qu'on fait à propos des bombardements qu'on a fait en Libye, etc. Dernière remarque, vous avez parlé d'Éric Zemmour.
Pardon,
Oui?
pardon,
Je
Denis.
continue?
Je te laissais peut-être rebondir, mais il faut laisser ma copine répondre parce que ça va être trop long sinon.
Oui, tu me redonnes la parole?
Oui.
Non, ben, je ne m'attendais pas à plusieurs questions. Donc, alors, la première question, c'est, je vais répondre sur le Talmud d'abord, d'accord? Et sur les religions. Voilà. Je vais répondre.
Vous avez coupé votre micro, monsieur Cohen.
Et là?
C'est bon.
Là, c'est bon? Ok, d'accord. Bon, je ne prétends pas connaître le Talmud. Je vous ai dit qu'il y a une trentaine de volumes. Maintenant, il y a probablement des passages. Je ne dis pas le contraire. C'est-à-dire, je dis qu'il y a suffisamment déjà. Moi, je les connais, ces passages dans la Bible, qui sont ultra racistes, etc. Bon. Et qu'on aille les chercher aussi dans le Talmud, qui existe aussi dans le Talmud, c'est bien possible. Bon, mais moi, personnellement, je ne les connais pas. Et voilà, donc c'est... Bon, et concernant le... Vous savez, qui ont été les sionistes? Les sionistes ne connaissaient rien, ni à la Bible, encore moins le Talmud. Vous savez, le Talmud, par qui il est étudié, le Talmud? Chez les Juifs. C'est vraiment, il faut aller dans des écoles spécialisées pour étudier le Talmud. C'est-à-dire, ce sont des étudiants qui quasiment renoncent à toute étude de mathématiques, de français, d'histoire, etc., pour étudier le Talmud. Et même parmi ma classe d'âge, etc., on était peut-être 5% à avoir étudié un tout petit peu le Talmud. Donc le Talmud n'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde et qui est lu par tout le monde. Bon. Et ceux qui ont été sionistes, c'est-à-dire ceux qui ont lancé le mouvement sioniste, c'était des athées, tout ce qu'il y a d'athées, c'est-à-dire c'était des marxistes qui venaient de Russie, de Pologne, qui n'ont jamais ouvert la Bible, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé la Bible uniquement comme couverture idéologique. Donc, ceux qui essayent de faire le lien entre la cruauté que je reconnais enfin, au sionisme, à la domination, etc., elle venait de n'importe quoi sauf du Talmud, parce que ils n'ont jamais lu le Talmud, ces gens-là. Ils n'ont jamais, ils savaient même pas prier. Donc, je comprends pas pourquoi il faut chercher absolument ce lien entre le Talmud et l'idéologie sioniste. Il y en a pas parce que les gens qui, je veux dire, je vais vous raconter, enfin, une petite anecdote. Par exemple, mon père, quand il est arrivé en Israël, en 68, il a vu les sionistes comme ça, il m'a dit, je me souviens très bien, il m'a dit, mais ce ne sont pas des juifs. Voilà, pour lui, c'est tout sauf des juifs, parce qu'ils n'ont absolument pas le comportement de juifs, ils ne savent rien de la prière, des lois, etc. Donc, dire qu'ils qu'ils tirent leur idéologie de domination politique, etc., du Talmud, enfin, pour moi, c'est aberrant. Voilà. Parce que c'était des gens, quand on connaît l'histoire des pionniers, des sionistes, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés, c'était des militants communistes. Il faut pas oublier quand même, enfin, ça, c'est une des grandes marques des premiers sionistes, c'était qui ont créé les kibboutzim, etc., ces collectivités. Ils avaient une idéologie sioniste, mais couplée avec l'idéologie communiste, marxiste. Voilà. Et donc, je regrette qu'on fasse ce lien parce que pour moi, il n'est pas valable. Bon, maintenant, je vous redonne la parole pour me reposer.
Merci volontiers. Oui, j'ai parlé des juifs ou des rabbins de Nature et Carta qui interpellent les sionistes et qui leur demandent pourquoi leurs aînés ont repoussé les offres que les nazis leur ont faites en 41, en 42, de laisser sortir les juifs d'Europe en l'échange d'une rançon. La deuxième remarque, c'était à propos des bombes américaines qui auraient protégé de la mort les habitants des camps de concentration.
Bon, alors, je commence par cette... Oui, bon, non, je voilà. Donc, il y a eu effectivement... je pense peut-être qu'il y a ce point d'histoire, je ne le connais pas très bien, mais le seul obstacle, enfin, le grand obstacle qu'il y avait au départ, enfin, au sauvetage des Juifs... c'est le refus de l'Angleterre de les accueillir en Palestine et de tous les autres pays de les accueillir. Donc, en fait, c'est vrai que les Allemands, ce n'est pas les sionistes qui refusaient cet échange. C'est pas vrai. Eux, ils ne demandent, enfin, ils voulaient recevoir le maximum de personnes. Enfin, c'est évident. Mais par contre, il y a aucun pays ne voulait de ces réfugiés. C'est-à-dire, voulait éviter cet échange parce que ça aurait signifié l'arrivée de dizaines de milliers ou de centaines de milliers de juifs, ce qu'aucun pays européen n'était prêt à accepter, ni l'Amérique. Donc, revenons au bombardement. Il ne s'agissait pas de, comment dire, il s'agissait pas de sauver les juifs en bombardant les camps de concentration. Mais les camps de concentration étaient des machines d'extermination ultra perfectionnée. Bon, donc il y avait les voies ferrées. Même en lançant des bombes tout autour, on aurait détruit un système, disons, enfin, une infrastructure de la mort. Même s'il y avait eu peut-être 1 000 ou 2 000 morts des camps de concentration, mais il y avait des appels des communautés juives, enfin des responsables juifs dès 1942-1943 pour bombarder ces camps. Et l'Occident, comme par hasard, ne l'a jamais fait. Voilà. Ce n'est pas une question de précision, loin de là. Mais ne serait-ce que détruire si on lançait une centaine de bombes, après tout, ils n'ont pas hésité à bombarder Dresde, etc. Si on lançait une centaine de bombes autour d'Auschwitz, bon, on détruit quand même des voies ferrées, etc. Et en fait, c'est ça, c'est cette machine de mort terrible qui aurait connu un frein. Et que l'Occident, pour des raisons. Voilà, ça je ne sais pas. N'a jamais, l'Amérique en tout cas, ou l'Angleterre, n'ont jamais voulu le faire. Voilà.
Donc, je disais que le sujet récemment abordé est extrêmement sensible. Enfin bon, on va pas prolonger le débat, ou peut-être plutôt hors antenne. Donc, pour des raisons bien compréhensibles, Fiorentino a la parole désormais.
Oui, bonsoir Monsieur Cohen, merci d'être venu participer à cette émission. Je voulais simplement vous poser une question, c'est-à-dire si vous étiez plutôt sur la ligne d'un Michel Colomb qui soutient que les USA sont la main qui dirige Israël, ou à l'inverse plutôt comme un Soral qui soutient, lui, qu'Israël dirige la politique américaine. Voilà, merci de votre réponse.
Enfin, moi, je dirais que c'est plutôt pardon. Non, franchement, Israël donne l'illusion de faire marcher l'Amérique. Mais en fait, c'est parce que l'Amérique veut bien marcher dans cette combine. Parce que lorsque l'Amérique n'aura plus intérêt à défendre Israël ou à le voir aussi puissant, etc. Je sais pas qu'ils le laisseront tomber, mais ils adopteront les mesures qu'il faudra, et puis pour remettre les choses dans l'ordre. Aujourd'hui, enfin, pour le moment en tout cas, Israël est un outil extraordinaire aux mains des États-Unis. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont brisé tout. Enfin, je veux dire, ils ont fait reculer le monde arabe de 50 années. Bon. Et donc, c'est plutôt l'Amérique qui fournit les armements qu'il faut et tout. Enfin, je vais vous rappeler un événement historique qui a eu lieu en 1990. On voulait organiser une conférence de Madrid. La conférence de Madrid réunissant Israël et ses voisins, parce qu'Israël dit toujours, je veux faire la paix, mais quand on lui dit, bon, voilà, on va faire une conférence internationale pour déterminer les territoires, les frontières, etc., il refuse constamment parce qu'évidemment, il ne veut pas la paix. Donc, Israël ne voulait pas. Et à l'époque, il y avait le premier ministre israélien était Shamir, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était encore, c'était un des terroristes de 1948, d'extrême droite, etc., qui avait refusé net. Ben, George Bush, enfin Bush père, lui a dit, ben, c'est très bien, je bloque la garantie d'un emprunt israélien, etc. Ben, une semaine après, les Israéliens étaient allés à la conférence de Madrid. Donc en fait, bon. On veut donner. Je ne crois pas qu'Israël a de l'influence là-bas, parce que à cause du lobby, mais à cause aussi des chrétiens évangéliques qui militent pour Israël. Il ne faut pas oublier quand même cet aspect, ce double aspect de la politique israélienne, et parce que ça sert la politique américaine. Mais je ne sais pas ce qui peut se passer dans 5 ans, dans 10 ans. Peut-être qu'Israël ne servira plus les intérêts américains, et là on verra les choses changer. Mais ce n'est pas Israël qui détermine la politique américaine.
Merci de votre
Merci.
réponse. La
Merci
réponse
pour
de
votre
parole est
réponse,
passée.
Monsieur Cohen. Je vais faire passer un auditeur, voilà.
Oui, merci. Alors, c'est une transition parfaite, là, parce que ça me donne bien envie de réagir là-dessus. Moi, il y a une question, enfin, je pense, hein, que quand on réfléchit à comment fonctionne la politique, la géostratégie, etc., il y a une question qu'il faut toujours se poser, et c'est de savoir qui paye, c'est-à-dire qui finance, qui fournit donc le financement. Voilà. Et j'ai envie de réagir par rapport à ce que vous venez de dire, Monsieur Cohen, parce que quand on sait que les États-Unis sont endettés à la hauteur de milliards de dollars à la Réserve fédérale américaine, qui est une arnaque, enfin, c'est tout simplement incroyable, et qui est composée de 8 banques juives sur 9, l'exception étant, je crois, JP Morgan, qui est une banque d'origine protestante. Est-ce que vous croyez, enfin, c'est juste une réaction, hein, par rapport à ce que vous venez de dire, vous pensez vraiment que les États-Unis sont en pleine possession, de leur souveraineté? Moi, ça me paraît, totalement naïf, surtout quand on sait que, par exemple, le président Obama, a été financé, je crois que la première contribution financière a été de la banque, Goldman Sachs, hein. Donc, moi, j'ai vraiment du mal à croire personnellement, hein. Alors, peut-être que vous voyez encore, les États-Unis dominant Israël et s'en servant, comme un pion au Moyen-Orient. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est la banque juive, alors sioniste ou non, je ne sais pas, hein, mais la banque juive qui détient en fait la souveraineté des États-Unis, tout simplement qui les tient par la barbichette, si vous voulez, hein, pour parler poliment. Ensuite, donc ça c'est juste une réaction, donc si vous voulez réagir par rapport à ça, pas de problème. Et ensuite, ma question c'était par rapport au tribalisme. Vous avez rejeté un petit peu plus tôt un auditeur précédent l'idée du tribalisme, hein, qui aurait animé certains Sayanim, certaines élites, etc. Moi, je constate qu'on parle beaucoup d'Israël et du sionisme. Il se trouve que moi, je suis européen, et donc je ne suis pas palestinien, même si je peux faire preuve de sympathie, voilà, pour les Palestiniens, parce que je comprends un petit peu leur situation, étant donné qu'ils sont colonisés, un petit peu comme les pays européens sont colonisés par une élite qui n'est pas la nôtre. Et donc, on parle beaucoup d'Israël et du sionisme, et moi j'ai l'impression, Monsieur Cohen, que si Israël disparaissait et que le sionisme, entre guillemets, disparaissait demain, ça ne résoudrait aucunement le problème de ces élites présentes dans les pays occidentaux qui n'ont absolument aucune loyauté, que ce soit à la France, que ce soit aux États-Unis, etc., etc. Donc pour moi, Israël, si vous voulez, j'ai l'impression que c'est un petit peu une perte de temps. Voilà, même si effectivement, je peux comprendre tout à fait. Par rapport à la question palestinienne, qu'on ait envie d'en parler. Mais ça ne me semble pas être le fond du problème. Voilà, merci.
Bon, alors, comment dire, pour l'Amérique, enfin, je vous donne une opinion maintenant, c'est une opinion d'un auteur, bon, c'est tout, c'est d'un individu, voilà, hein, qui essaye d'intéresser. Bon, aux États-Unis, il y a certainement des complexes militaro-industriels, il y a des compagnies pétrolières, il y a des banques, il y a toutes sortes d'intérêts qui se conjuguent. Il n'y a pas que la banque juive, voilà. Et il n'y a pas que l'AIPAC. Je veux dire, il y a énormément d'intérêts. Bon. Et je reste convaincu que il peut arriver un jour que ces intérêts, comment dire, les intérêts de l'Amérique, mais ces intérêts divergents, c'est-à-dire, je ne pense pas que le pétrole américain, les compagnies d'armement en Amérique ou les laboratoires pharmaceutiques soient comment dire, soient des lobbies juifs. Voilà. Bon, on peut citer la banque, on peut citer la banque, moi je veux bien, mais enfin, il y a énormément d'autres forces qui jouent et qui n'ont pas grand-chose à voir avec le lobby juif. Voilà. Et donc, je pense que jusqu'à présent, Israël répond parfaitement aux intérêts de l'Amérique, mais cet intérêt peut évoluer. Je ne sais pas comment ça peut arriver, ni dans quelle mesure, mais ça, les relations internationales sont soumises à des tas d'évolutions. Israël est de plus en plus, ça c'est une analyse personnelle, s'enferme de plus en plus dans une situation qui rend vraiment la région explosive et donc
qui est source potentielle d'énormes dangers, d'énormes explosions. Et ben, voilà, un jour, on lui dira, bon, ben, maintenant, vous vous la fermez, vous acceptez, et puis basta. Et ils ont les moyens de le faire. L'Europe et l'Amérique ont les moyens de le faire. Bon, alors, pour revenir à votre... je ne crois pas avoir très bien... Bon, je ne sais pas, le problème... Le problème d'Israël peut vous paraître, je sais pas, à côté de la plaque, ou superflu, etc. Vous avez parlé de, comment dire, d'une certaine élite qui, si Israël disparaissait, continuerait son petit bonhomme de chemin en dehors de, comment dire, pas vraiment dans l'intérêt du pays dans lequel ils vivent. Bon, et je crois avoir compris ça. Je peux me tromper, je vous donnerai la parole tout à l'heure pour me le dire. Donc, pour moi, c'est une référence au cosmopolitisme juif, c'est-à-dire cette idée que certains courants antisémites ont toujours développé, que les juifs ne peuvent pas être patriotes et ne peuvent pas défendre leur pays, le pays où ils vivent. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord parce que, enfin bon, on ne va pas rentrer dans les... Mais il y a eu énormément de juifs qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale dans l'armée française, il y a eu aux États-Unis, etc. Et je crois que c'est un argument que les antisémites ont développé. Enfin, si j'ai bien compris le sens de votre remarque. Voilà.
Oui, bon, merci de me laisser réagir. Donc vous pensez, alors par rapport aux États-Unis d'abord, très rapidement, je tiens à préciser que le pouvoir du complexe militaro-industriel ou de certains lobbies pharmaceutiques par rapport au trou noir, au véritable trou noir créé par la réserve fédérale de dette qui va finir par s'approprier tout le pays, donc le pouvoir de ces lobbies secondaires par rapport au pouvoir de la banque centrale américaine, excusez-moi, passez-moi l'expression, c'est du pipi de chat. Et alors deuxièmement, par rapport au tribalisme, et donc vous rejetez l'idée du tribalisme, effectivement, ou l'idée du cosmopolitisme, etc. Moi, je ne dis pas, personnellement, je ne pense pas que tous les juifs soient incapables de, c'est pas cette idée-là, mais simplement, vous croyez vraiment que si demain Israël venait à disparaître pour une raison quelconque, enfin que, voilà, le sionisme, qu'on réglait le problème d'Israël et du sionisme, de n'importe quelle façon, vous pensez sincèrement que des gens comme Bernard-Henri Lévy, comme Jacques Attali, comme je ne sais pas, mais on peut en citer, enfin, il y en a une ribambelle dans les pays occidentaux, se découvriraient subitement un profond attachement à la France ou aux États-Unis, etc., etc.
Ah, je suis désolé, à leur manière, ils ont un profond attachement à la France. Voilà. Moi, je regrette. Je n'ai aucune sympathie pour les personnes que vous avez citées. Mais je dirais qu'ils ont un profond attachement à la France. Voilà. Et cet attachement sera d'autant plus complet, total, parce que là, aujourd'hui, ces Juifs-là, ils vivent une certaine schizophrénie, parce qu'ils ont une double allégeance. Mais si Israël venait à disparaître, c'est-à-dire, pour moi, la disparition d'Israël, je la vois de cette façon-là. C'est-à-dire, à un moment donné, une paix basée sur deux États étant impossible, j'ai pas besoin d'entrer dans les détails, étant impossible, et on va les obliger, Israéliens et Palestiniens, à vivre dans un même État, et donc l'idée sioniste va disparaître. Et à ce moment-là, ces gens-là que vous avez cités, qu'ils soient à gauche ou à droite, etc., n'auront plus cette allégeance, et ils seront d'autant plus... amenés à vivre à 100% dans leur pays que s'il y avait que si Israël continuait d'exister. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que vous savez, on dit que les Juifs sont sionistes, mais combien de Juifs sont partis volontairement vivre en Israël? Mais il y en a très peu. Les Juifs des pays arabes ont été emmenés de manière discriminatoires, roublards, on les a roulés dans la farine, etc. On les a emmenés contraints et forcés. Les Juifs russes, on les a emmenés contraints et forcés. Les Juifs éthiopiens, on les a emmenés contraints et forcés. En fait, Israël n'avait... les Juifs sont pro-israéliens, il y en a beaucoup qui sont pro-israéliens, mais ils préfèrent vivre en France, aux États-Unis, en Belgique, partout. Donc, en fait, ils ont un sionisme faut pas non plus. Il faut pas exagérer. Enfin, pas exagérer, c'est pas le mot. Mais c'est-à-dire, en fait, ils ont une sympathie et parce que le lien, etc. Ils le défendent. Ils sont des Saiyanines même. Mais pas au point d'aller là-bas et se dire, voilà, j'ai envie de vivre ici pour défendre ce pays pour lequel je me bats, etc. Et très peu le font. Et historiquement parlant, ça a toujours été comme ça. La plupart des gens qui sont allés ne sont allés que presque contraints et forcés. Je crois avoir répondu, enfin, s'il y a un point que je n'ai pas répondu.
Non, merci beaucoup de votre réponse, en tout cas, Jacob. Donc, une question suivante qui ressort de l'interrogation d'un auditeur, c'est de savoir, quand on est opposé, on va dire, à l'extension des colonies en Israël, à l'expansionnisme sioniste, quelle est la ligne la plus intelligente à défendre? C'est-à-dire, faut-il militer pour un État commun, sans frontières, et avec, par exemple, peut-être des droits pour la minorité juive, puisque finalement elle est en minorité? Faut-il imaginer deux États? Alors, vous venez dans la réponse précédente d'invalider cette hypothèse de deux États. Lorsque vous pouvez revenir là-dessus, quel destin donc pour Israël-Palestine? Merci.
Pour moi, l'État juif, Israël, au moment de sa création, il a établi une règle. Il ne peut y avoir qu'un seul nationalisme entre la mer Méditerranée et le Jourdain. C'est-à-dire, d'ailleurs, bon, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, les dirigeants sionistes en 1947 et 1948 ont passé un accord secret avec la Jordanie pour empêcher justement toute création d'un État palestinien en Cisjordanie. Et donc, les Jordaniens ont donné des villes comme Lod et Ramleh aux forces sionistes et ont occupé le reste. Donc, leur intérêt commun est d'empêcher toute émergence d'un État palestinien. Et pendant les 30 ou 40 années qui ont suivi 1948, la création de l'État d'Israël, Israël a tout fait pour empêcher toute résurgence du nationalisme palestinien. On disait, oui, un État palestinien, mais il est en Jordanie, l'État palestinien n'a jamais existé, le peuple palestinien n'a jamais existé, etc. Bon. C'est à partir des années 80-90 qu'ils ont vu que bon, ben, ça collait pas. Donc, il fallait faire des accords d'Oslo pour tromper les Palestiniens, les dominer et leur donner un semblant de bantoustan, voilà, pour les calmer. Et on continue à coloniser. Aujourd'hui, la situation est telle. Enfin, connaissant l'état d'esprit des Israéliens et leur façon de faire concrète en Cisjordanie, ils ne lâcheront jamais. Ça, c'est la seule possibilité qu'ils offrent aux Palestiniens, c'est d'avoir un bantoustan dont ils contrôleront toutes les frontières, même la vallée du Jourdain. Il y a un consensus en Israël pour dire que la vallée du Jourdain ne sera jamais contrôlée par les Palestiniens. Ça veut dire que les Palestiniens vivront entouré comme dans un camp, voilà, par les miradors israéliens. Voilà, bon. Est-ce que les Palestiniens accepteront? Je ne crois pas. Mais les Israéliens pensent qu'à force de les dominer, ils vont finir par accepter. Donc, à un moment donné, la situation sera tellement inextricable et la création de deux États tellement, enfin, pour moi, elle est impossible de toute façon depuis un bon moment. Donc, on ne peut arriver qu'à cette solution d'un État unique. Et si on veut se battre, pour moi, le vrai combat aujourd'hui, c'est de se battre pour un État unique, ça veut dire un homme, une voix, pas d'apartheid, l'égalité de droit pour tous et la démocratie pour tous.
Merci pour votre réponse, Monsieur Cohen. Je vais passer la parole à Coco Pelli.
Oui, alors ma question était, donc merci déjà de votre intervention, pour votre courage. Pouvez-vous nous dire comment les sionistes ont fait taire les importants courants antisionistes dans la communauté juive, donc notamment les Touré Carta, mais même donc tout ce que vous avez dit d'ailleurs, de telle sorte que les juifs antisionistes sont totalement absents des médias et ignorés du grand public? Donc voilà.
Bon, sur ce point, je suis pas vraiment d'accord. C'est-à-dire que, en fait, votre remarque était juste jusqu'à il y a quelque temps. Vu la domination, comment dire, sur les médias des judéo-sionistes, et donc ils arrivaient à faire taire toutes les voix antisionistes. Et par exemple, bon, j'ai lu récemment, il y a un ambassadeur juif en Belgique, à Bruxelles, il y a quelques jours, qui avait fait une conférence pour dire que, enfin, disons, il y a un certain antisémitisme, certains actes antisémites peuvent s'expliquer par la politique de colonisation israélienne. Et donc, il mettait en cause la politique israélienne. Et là, ça, bon. Les Israéliens ont toujours procédé, Israël Charak, d'ailleurs, c'était. Il en parlait déjà même en 1973, il trouvait la parade toujours avec l'antisémitisme et la haine de soi, etc. Bon. Et donc, mais je crois que cet argument est de moins en moins valable avec le temps. Enfin, moi, je vois l'évolution, il est absolument phénoménal en quelques années. Et il y a des voix, enfin, il y a des voix comme Shlomo Sand, comme. Enfin, Ilan Pappé, etc. Enfin, il y a beaucoup de voix qu'on n'arrive plus à faire taire. Au contraire, ce sont des voix qui prennent de plus en plus de l'importance et même presque, enfin, pas une importance démesurée, mais une importance assez extraordinaire. Enfin, je veux dire, pensez à Norman Finkelstein, par exemple. Moi, j'ai vu une vidéo où il faisait des conférences, mais devant des salles absolument bondées au Japon, au Liban, enfin, un peu partout. Et donc, on essaye de le faire taire, bien sûr, c'est-à-dire qu'il a perdu son job à l'université, etc. Mais en même temps, je crois que le mouvement de résistance prend de plus en plus d'ampleur et de force. Et ça allait avec une remarque antérieure que j'ai faite, c'est que le vent est en train de tourner. Voilà. C'est-à-dire il y a une génération qui remplace une autre. Moi, j'appelle la précédente génération la génération Exodus, en évocation avec le film de 1961 qui racontait l'histoire de 1948 vue par les sionistes. Et maintenant, on a une nouvelle génération qui pense différemment et qui est en train petit à petit de prendre le pouvoir.
Merci de votre réponse, Jacob. Donc, je vais relayer la question d'un auditeur, pardon, qui a quelques petits problèmes de micro. Donc, vous avez parlé tout à l'heure comment dire, des juifs de la diaspora qui sont globalement pro-israéliens, sans pour autant aller s'établir en Israël. Mais quel est, selon vous, l'avis général des habitants israéliens, des citoyens israéliens, par rapport aux juifs, justement, qui ne se sont pas installés en Israël? Merci.
Bon, d'abord, il y a presque, je pense qu'il y a 400 000 Israéliens qui ont quitté leur pays. Alors, ce qui est étonnant, c'est déjà le mot hébreu pour les qualifier. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui vont en Israël, on ne dit pas qu'ils immigrent en Israël, ils disent qu'ils montent, comme s'ils allaient vers un sommet moral ou idéologique, etc. Et ceux qui quittent descendent. Donc, enfin, c'est presque une descente en enfer. Donc, il y a déjà un terme péjoratif pour ceux qui quittent Israël, les Israéliens. Et si vous avez, enfin, il y a quelques jours à peine, on a parlé d'une campagne de publicité montée par le gouvernement israélien pour comment dire, culpabiliser les Israéliens qui sont installés aux États-Unis. Mais de manière telle que la communauté juive, etc., a protesté en disant, mais attendez. Et donc le gouvernement était obligé d'annuler cette campagne de propagande. Bon. Donc c'est dire, enfin, c'est-à-dire que ces gens-là, bon, il y a seulement 2 jours, il y a un ministre d'origine tunisienne qui a appelé les juifs de Tunisie à aller en Israël. Donc en fait, ils essayent par tous les moyens de faire venir, mais ils voient bien que ça colle pas. Et en même temps, ils ont un certain. L'Israélien a toujours développé un mépris presque viscéral pour le juif de la diaspora, le juif qui reste bien installé confortablement en France, en Amérique, etc. Alors que lui fait son service militaire, il se bat et tout au nom du peuple juif. Alors qu'enfin bon, on lui a rien demandé. Mais disons, c'est leur vision à eux de prendre ces juifs qui est de la diaspora. Ils ont un mépris, c'est-à-dire qu'en fait, eux, ils représentent. C'est un peu comme l'homme nouveau du communisme, fort, grand, beau, dominateur, etc. Et le juif de la diaspora qui reste faible, plongé dans ses livres, dans sa culture. Voilà l'image qu'il véhicule là-bas.
Merci pour votre réponse. Alors, je verrai la question de Michel. Connaissez-vous le documentaire Nation, qui est donc un documentaire réalisé par Yoav Shamir en 2009 et qui examine le phénomène donc de l'antisémitisme réel ou instrumentalisé, notamment aux États-Unis en étudiant des ligues telles que l'Anti-Defamation League hein, aux USA. Donc voilà, est-ce que vous connaissez ce documentaire? Là, en avez-vous pris connaissance et qu'en pensez-vous?
Ah oui, j'ai vu le documentaire, il est extraordinaire. D'ailleurs, enfin, à mon avis, c'est un documentaire qu'il faut tout faire pour le faire diffuser au maximum. D'ailleurs, les sionistes veulent créer un anti-defamation league au niveau européen. Ça, c'est une nouvelle assez récente, donc c'est en projet. Bon, déjà, il y a deux choses intéressantes, enfin entre autres, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, il y a d'abord cet antisémitisme qu'on essaie de monter en épingle aux États-Unis, les soi-disant actes antisémites, comme en France d'ailleurs, et en même temps, il y a cet aspect de ces jeunes qu'on emmène visiter les camps de concentration, et remarquez comme c'est un phénomène nouveau. Je pense qu'ils le disent dans le film, ou en tout cas, moi je le sais, c'est que ce phénomène de voyage n'a commencé qu'il y a une vingtaine d'années. Voilà. Donc en fait, on a senti à un moment qu'il fallait vraiment mettre le paquet, si je puis dire, comment dire, secouer cette jeunesse qui risquait de tomber dans. Vous savez, par exemple, enfin, c'est une anecdote. En 1968, le premier ministre israélien a refusé aux Beatles de venir chanter en Israël. Donc, c'est vraiment, on veut garder cette forteresse idéologique, préserver des influences des hippies ou de la drogue, ou même des idées pacifistes, etc. On a refusé aux Beatles de venir chanter en Israël. Donc, en fait, cette jeunesse, aujourd'hui, c'est 30 000 jeunes israéliens qui vont chaque année aux Juifs, ils reviennent complètement déboussolés. D'ailleurs, il y a des jeunes qui sont interviewés dans le film et le journaliste leur dit, mais pourquoi vous sortez pas dans la ville? Allez-vous balader, etc. Alors, ils lui disent, c'est des jeunes filles de 15-16 ans. Alors là, on nous a dit que il fallait faire attention, les gens nous haïssent, ils ne nous aiment pas. Et ces jeunes rentrent chez eux et les médias sionistes le disent d'ailleurs. Ce sont eux qui, quand ils sont appelés au service militaire, ils sont à peu près 75% à vouloir aller dans les unités combattantes. Voilà le lien entre ce pèlerinage et cette envie de, comment dire, ce projet de créer ce sentiment de forteresse pour se battre, pour refuser tout compromis, le monde est contre nous, etc. C'est vraiment un film absolument extraordinaire.
Merci Jacob pour cette réponse. Je laisse la parole à Robin Desvilles désormais.
Oui, alors moi je remarque qu'on mélange souvent antisémitisme et antisionisme. Et pourtant, l'antisémitisme a existé bien avant la création de l'État d'Israël. Et donc, je voulais vous demander, selon vous, quelles sont les causes de l'antisémitisme?
Je pense que enfin, l'antisémitisme, ça remonte à peu près avec les premières croisades, c'est-à-dire au 10e, 11e siècle. Voilà. C'est-à-dire on a besoin d'un ennemi extérieur, donc ces gens qui allaient vers Jérusalem pour la délivrer, etc., les croisés européens, on leur a livré les Juifs en pâture. C'est-à-dire, bon, il y a toujours un bouc émissaire. Voilà. C'est très facile, on dit voilà, ils ont tué Jésus-Christ, etc. Ça, d'une part. Donc, et deuxièmement, il y a beaucoup d'Européens au Moyen-Âge, etc., qui refusaient aux Juifs de s'installer dans leur pays, comme en Angleterre, en Suède, ou bien on les empêchait de faire certains travaux, par exemple d'être, je sais pas moi, de faire partie des corporations artisanales, agricoles, etc. Donc, ils étaient uniquement voués au commerce. Donc, je pense que le peuple juif a servi, enfin, entre autres, je veux dire, une des raisons, je pense, principales de l'antisémitisme, c'est d'avoir servi de bouc émissaire au pouvoir. Voilà. Par exemple, c'est vrai que les juifs les chrétiens ne pouvaient pas faire du commerce jusqu'au 15e, 16e siècle. Donc ce rôle de banquier ou de prêteur était dévolu aux juifs. Mais quand le prince avait trop de dettes, il disait, bon, ben, toutes les dettes sont effacées, razzia sur le ghetto juif, et puis voilà, c'était trop facile. Voilà. Donc, et puis après, l'antisémitisme a eu aussi, comment dire, des idéologues, c'est-à-dire des gens qui ont construit toute une théorie sur les Juifs. Tout à l'heure, j'avais parlé, par exemple, du cosmopolitisme, c'est-à-dire que le Juif ne pouvait pas s'intégrer dans une société, ne pouvait pas être un citoyen à part entière, faire l'armée ou travailler, être fonctionnaire, enfin, être loyal à son pays. On a développé des théories comme ça. Et enfin, bon, voilà, je pense que c'est un fait historique. Et voilà l'origine, enfin, en gros, comment l'antisémitisme s'est développé, s'est incrusté en Europe. Mais il ne faut pas oublier une chose, l'Amérique était antisémite aussi. C'est-à-dire, il y avait par exemple, les organisations franc-maçonnes ne recevaient pas des juifs. Il y avait des endroits où carrément étaient des hôtels, etc. Et dans les années 20, 30, des clubs de golf étaient interdits aux juifs et aux noirs. Voilà pourquoi, parce que je pense que le racisme, ou l'antisémitisme, le fait de montrer du doigt une communauté, ça renforce peut-être la cohésion. Voilà, il y a probablement un tas d'éléments qui ont joué dans le passé. Et les sionistes ont imaginé cette confusion entre antisionisme et antisémitisme parce que ça les arrange. C'est-à-dire que dès qu'il y a une critique contre Israël, on dit c'est de l'antisémitisme. Et là, tout de suite, bon, c'est vrai que l'antisémitisme a atteint son apogée avec le génocide nazi. Et donc, c'est un élément qui est terrifiant pour ceux qui critiquent. Il y a certains qui n'osent plus critiquer, mais bon, comme tout argument, il a fait son temps et il est de moins en moins accepté parce que bon, à un moment donné, on ne peut plus tolérer cet amalgame.
Ok, merci pour votre réponse, Monsieur Cohen. Donc, je vais poser maintenant une question moi-même. Alors, c'est une question qui m'est venue à la suite de discussions avec un camarade des patriotes français et par ailleurs de confession juive, et qui se demandait pourquoi dans ces milieux un petit peu dissidents, on lui demande toujours de condamner le CRIF, de condamner les sionistes. Et pourquoi on le soupçonnait de philo-sionisme de base se dédouaner. En fait, moi, je pense que le mot antisémite, c'est vouloir nuire à tous les juifs, juifs de base et juifs d'élite. Alors qu'en fait, la plupart des gens qui sont désignés comme antisémites sont en fait anti-BHL, anti-Attali, anti-CRIF. Et donc ces juifs d'élite antinationaux entretiennent l'assimilation du juif de base à la tête que je considère comme pourrie pour instrumentaliser donc cette cause et se servir donc d'antisémites à leur profit. Et donc en fait ils prennent en otage selon moi les juifs de base qui doivent malgré eux sortir du bois car qui ne dit mot consent. Et donc, directement, c'est pourquoi il n'émerge pas un courant plus nombreux d'intellectuels juifs qui encouragerait à condamner ces juifs pour éviter l'assimilation eux-mêmes. Pourquoi il n'émerge pas une juif
Pardon, Simon, tu m'étais entendu.
Il y a un problème avec le micro, hein.
Il y a un problème de micro, Simon, alors
Mais j'ai compris plus ou moins votre intervention. Vous voulez que je réponde?
répondez si vous voulez, oui.
D'accord. Oui, en fait, le problème, qu'est-ce qui se passe? C'est que les institutions, comme le CRIF, par exemple, et Ils représentent peut-être 20 ou 25% de la communauté juive en France, à peu près. Bon, le problème, c'est qu'on a l'impression ils ont quasiment le monopole. Voilà. Ils ont le monopole de la représentation juive, avec la complicité évidemment de l'État, enfin de l'État français qui le reconnaissent comme seul, pratiquement comme seul représentant. Donc les autres voix, elles existent. Malheureusement, on ne leur donne pas la possibilité de s'exprimer. C'est-à-dire, il y a des voix individuelles. Bon, moi, par exemple, je fais partie du JFP, l'Union des Juifs pour la Paix. Bon, mais malheureusement, on ne lui donne pas la possibilité de s'exprimer dans les médias. Il y a des personnalités comme Esther Benbassa, les noms ne me viennent pas à l'esprit, mais il y a des personnalités qui le font à titre individuel, comme René Broman, par exemple. Malheureusement, ils n'ont pas la possibilité les organisations dans lesquelles ils pourraient rentrer, le refusent. Il n'y a pas de voix dissidente au CRIF, par exemple. Il y a que c'est vraiment la pensée unique pour Israël. Si on n'est pas d'accord, on est out, on est rejeté. Donc ce sont des voix qui se retrouvent dehors. Et on donne l'impression, et c'est vrai ça, c'est-à-dire votre remarque est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'on donne l'impression que un juif français, il est a priori avec le CRIF. Et on lui demande à ce moment-là de justifier sa position. Alors que, personnellement, je crois qu'il y a au moins la moitié de la communauté, ou sinon, qui ne se reconnaît pas dans les positions du CRIF. Mais malheureusement, le fait est qu'ils ont fait main basse sur les institutions juives et se présentent comme les seuls représentants. Voilà.
Merci Jacob Cohen pour cette réponse. Alors moi j'aurais une question ensuite qui porte sur la circoncision donc au 8e chez les juifs. Alors condamnez-vous cette pratique et notamment au cœur de l'État, enfin de la République française, puisque alors évidemment cette circoncision qui symboliserait, si j'ai bien compris, l'union avec le peuple modèle ou peuple élu, hein, le peuple juif, et que l'entendement humain ne devrait pas chercher à comprendre, cette circoncision pose quand même des problèmes sur le plan médical. Il s'agit quand même d'une pratique qu'on peut quand même qualifier, je pense, de brutale pour l'enfant. Alors que pouvez-vous en dire? Enfin, je sais qu'il existe aussi une interprétation endocrinienne, des répercussions psychophysiologiques dont on pourrait parler, mais enfin je voudrais simplement vous poser la question d'abord si vous la condamnez, si vous trouvez ça choquant ou pas.
Écoutez, moi personnellement je suis athée, je ne respecte aucune tradition, aucune loi. Ceci dit, je ne la condamne pas nécessairement, enfin je ne condamne pas cette pratique, voilà, parce que je vois pas au nom de quoi, c'est-à-dire en fait, voilà, il y a des peuples qui ont des pratiques, les musulmans aussi font la circoncision, donc il y a 1 milliard de musulmans qui se font circoncire, enfin en tout cas les hommes. Je suis vraiment athée, mais à la limite, je condamne. Bon, je condamne des religions de manière générale. Voilà. Je vois pas pourquoi je condamnerais un élément plutôt qu'un autre. Est-ce que c'est barbare? Je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas vraiment réfléchi à la question et je ne vois pas. C'est-à-dire, je me dis que les gens qui sont religieux, ben, de toute façon, ils font des choses qui sont à peu près soit inexplicables, soit irrationnelles, soit complètement à côté de la plaque, soit peut-être des choses qui portent atteinte à leur intégrité. Mais enfin, à partir du moment où ils y croient, c'est leur problème. Je vois pas vraiment l'intérêt de débattre de cette question.
Très bien, je veux simplement dire que moi, à titre personnel, je trouve ça assez choquant les circoncisions en général, du moins chez les enfants, c'est-à-dire chez les individus qui ne l'ont pas choisi, et puis les excisions également sont assez choquantes. Bon, dans le cas de la circoncision 8e jour, il existe une particularité, bien sûr. Mais enfin bon, c'est pas tout à fait l'objet, comme on disait. Donc je vais laisser la parole à Simon, qui a probablement une question d'auditeur.
Oui, alors désolé pour le problème de micro. Je vais essayer de poser une question assez concise à Monsieur Cohen. Alors, qu'est-ce que vous pensez du révisionnisme historique concernant la Seconde Guerre mondiale? Et que pensez-vous de la loi Guesso? Êtes-vous pour son maintien ou son abolition? Merci.
Excusez-moi, vous pouvez répéter la première partie de votre question sur la Deuxième Guerre mondiale?
Simon demandait ce que vous pensez du révisionnisme historique sur la Seconde Guerre mondiale.
Bon, écoutez, ça tombe bien cette question parce que je ne sais pas si vous connaissez le CLAP 36. C'est un organi enfin, c'est une maison de production de documentaires indépendants qui ont fait un documentaire sur, par exemple, après l'hégémonie, qui parle de après l'invasion de l'Irak, etc. Donc, c'est une maison qui est très enfin, ils font des films très, des documentaires très intéressants. Et ils étaient chez moi il y a quelques jours et tout le débat a tourné autour de la loi Guesso, voilà, et du révisionnisme. Donc, je suis vraiment, c'est très frais dans mon esprit. Donc, moi, je vais vous dire, enfin, ce que j'ai dit maintenant, c'est que je suis absolument contre la loi Guesso. C'est-à-dire que c'est une aberration, enfin, incroyable. Il faut vraiment se soumettre au lobby juif pour avoir voté cette loi, parce que c'est le seul fait historique qui échappe à l'étude des historiens. Et d'ailleurs, il y a eu une pétition d'historiens très, enfin, qu'on ne peut pas soupçonner de quoi que ce soit, qui ont signé une pétition pour qu'elle soit abrogée. Mais l'état d'esprit tel est tel aujourd'hui qu'à mon avis, on la gardera. Et d'ailleurs, pour moi, non seulement elle n'a pas sa place, cette loi, mais à long terme, elle aura un effet inverse de ce qu'elle prétend réaliser. C'est-à-dire, on veut protéger comment dire, les juifs d'un certain révisionnisme, ou l'histoire, on ne veut pas que l'histoire soit entachée, etc. Mais ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens disent, bah, si c'est interdit, ça veut dire que ça cache quelque chose. Donc forcément, aujourd'hui, de plus en plus de gens sont convaincus que cette loi ne fait que protéger bon, quand je dis les juifs, c'est-à-dire derrière les juifs et les sionistes, le développement même c'est une loi qui a été votée en 90. Et donc, c'est depuis 20-30 ans que l'idée de la Shoah est en train d'être exploitée de façon extraordinaire. Par exemple, enfin, moi j'ai mis dans mon blog qu'on forme des professeurs, des enseignants chinois et russes à Yad Vashem en Jérusalem pour enseigner la Shoah. Enfin, je veux dire, ça devient. Bon, en fait, c'est la loi Guesso, elle rentre bien dans cette dynamique de protéger in fine Israël, voilà, de lui donner cette légitimité. Mais en même temps, non seulement d'abord, elle viole la probité historique des chercheurs en histoire, mais en même temps, elle développe cette idée que finalement, on a des choses, on nous empêche de chercher la vérité, donc il y a certainement anguille sous roche. Et malheureux, enfin, et c'est ce qui est en train de se développer, j'imagine. Et voilà, et donc la loi aura eu l'effet inverse de ce qu'elle voulait faire.
Mais vous-même, est-ce que, alors sans évidemment dire ce que vous en pensez, puisqu'une des réponses tombe sous le coup de la loi, enfin encore qu'ici on soit dans un établissement privé, mais vous-même, vous vous êtes déjà intéressé à cette thèse, vous avez lu de la documentation sur les thèses révisionnistes ou pas du tout?
Non, 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 pas du tout. Non. Je n'ai pas lu. Je sais pas, je pense qu'il y a des priorités dans. Voilà, c'est peut-être une question de priorité. Alors, personnellement, je pense qu'il ne fait aucun doute enfin, du génocide, des moyens qui ont été utilisés, etc. Voilà, et je ne comprends pas pourquoi on cherche à protéger un fait historique qui me paraît, enfin, personnellement, qui me paraît incontestable. Et donc, je n'ai pas vraiment cherché à lire et à ni approfondir ce côté de la question.
Très bien, merci. Donc apparemment, on donne la parole à Abou Labbas, c'est ça?
Non, Ben, pardon, Ben a la parole.
Oui,
Ah, il faut garder le bouton appuyé, Ben.
ouais, excuse-moi. Oui, bonsoir, Monsieur Cohen. Merci pour votre intervention. Écoutez, j'avais juste une question, en fait, toute simple. D'après l'histoire du Mossad, en fait, et comment cette organisation a été créée, et puis suite après à ses nombreuses interventions dans plusieurs contrées, on va dire. Là, l'histoire récente avec le 11 septembre, en fait, j'aurais juste aimé avoir votre sentiment, en fait, là-dessus, si il y avait si on pourrait, comment dire, faire un rapprochement entre la façon dont ça a été commandité, comment ça a été acté, et une quelconque participation de près ou de loin du Mossad, en fait.
Mon sentiment, il est. Enfin, je le donne comme ça. Je suis sûr. Enfin, personnellement, enfin, c'est un sentiment personnel. Et il est basé sur des lectures, mais non, c'est pas comme ça. Il y a eu certainement un coup fourré reliant Mossad, services secrets, etc. Et je voudrais, tout à l'heure, j'ai dit l'état profond. Enfin, j'ai juste dit l'état profond. Je voudrais juste dire deux mots là-dessus. En fait, c'est un analyste américain dont j'ai oublié le nom, qui a écrit un livre il y a quelques mois seulement, et qui a analysé l'état profond. C'est en Amérique. Et c'est quoi? C'est-à-dire, en fait, c'est l'union de toutes ces forces, qu'elles viennent du gouvernement, des administrations, des services secrets, de l'armée, ou de groupes de pression. Dont l'intérêt, par exemple, dans ce cas particulier, est d'avoir, disons, aidé à faire commettre, parce que, bon, une des meilleures analyses que j'ai lues jusqu'à présent, par exemple, j'en ai lu d'autres, mais c'est celle de Chauprade, qui vraiment donne des éléments sur la destruction des tours. Sur le temps qu'il faut pour les détruire, enfin, etc., etc. Et enfin, il est manifestement évident, et surtout aussi sur enfin, ces pilotes qui ont appris à piloter depuis 2 ans seulement des petits Pipers, et tout à coup deviennent des pilotes de Boeing absolument maîtres de leurs avions. Enfin, techniquement, c'est pratiquement impossible. Donc, il y a certainement enfin, pour moi, tous les éléments concourent à ce que cet état profond qui avait déjà élaboré des plans vis-à-vis de l'Irak, de l'Afghanistan, etc., avait besoin de ce coup de force, avait besoin de cette action qu'on a réussi à manipuler. Et bon, en général, les services secrets américains, israéliens, français, anglais marchent main dans la main. Et Éric Laurent, par exemple, un ancien journaliste du Monde, qui a écrit un livre très intéressant sur le 11 septembre, où il y a des implications économiques, etc. Il parlait justement d'un groupe du Mossad qui a été surpris à quelques centaines de mètres du lieu, sur une camionnette, en train de danser, etc. Il y a quelqu'un qui a appelé le FBI, on les a retenus quelques heures, et puis on les a expulsés. Ben, voilà, il y a certainement, enfin, moi c'est mon sentiment, si vous voulez savoir. Voilà.
Merci pour votre réponse, Monsieur Cohen. Alors moi, j'aurais une seconde question, désolé pour le micro qui fonctionne mal. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des Sayanim au Front National pour le noyauter et aider à sa normalisation, sionisation, afin de canaliser ce mouvement qui incarne en France une sorte de révolte populiste? Donc il y a certains éléments qui sont troublant à ce niveau-là, puisque là, j'ai vu dernièrement qu'il y avait Louis Alliot qui avait fait un voyage secret apparemment en Israël ce week-end. Il y a Marine Le Pen qui s'est déclarée pro-sioniste et qui semble engager le mouvement dans cette voie. Et puis il y avait un reportage sur Canal+ qui montrait l'infiltration de la franc-maçonnerie dans le Front National. Voilà. Une question là-dessus. Merci.
Bon, par définition, hein, c'est un Sayan, et le Sayan est un juif. Bon, à ma connaissance, enfin, donc, qui travaille pour le Mossad. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup. Enfin, je sais pas, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de juifs au Front National, ou en tout cas des juifs suffisamment bien installés pour pouvoir manipuler. Bon, ceci dit, ça n'empêche pas des, comment dire, des convergences d'intérêts. Voilà, donc en fait, je ne crois pas que ce soit une question de manipulation. À partir du moment où on fait de la politique, qu'on soit le Front National ou le NPA, enfin, pour moi, je considère qu'à partir du moment où on fait de la politique, il peut arriver des moments où on se dit, bon, il y a des intérêts en jeu, il y a des alliances à faire, il y a des compromis à réaliser. On reste rarement pur dans ces combats-là. Donc, si on voit une certaine inflexion de la politique du Front National, bon, ce n'est pas, je ne crois pas que ce soit de la manipulation. Je crois que c'est plutôt une analyse lucide, enfin lucide pour eux, enfin, pour ceux qui le font, réaliste, voilà plutôt le mot, une analyse réaliste du rapport de force, des avantages qu'on pourrait tirer d'une certaine alliance, etc. Pour atteindre ces objectifs. Ça, c'est, comment dire, c'est le béaba de l'action politique. Parfois, on fait des alliances contre nature parce que y a parce qu'il y a des intérêts supérieurs qui les commandent. Et le Front National ne peut pas échapper à cette, comment dire, au fonctionnement d'un organe politique.
Merci pour votre réponse, Jacob. Je vais faire passer à nouveau un auditeur.
Rebonsoir, Monsieur Cohen. Moi, je voulais juste faire deux petites remarques très rapides pour entretenir un dialogue avec vous, parce que vous nous avez apporté beaucoup de réponses et c'est intéressant. Moi, j'aimerais vous apporter deux petits éléments, peut-être pour aider à votre cheminement intellectuel, hein, qui sait. D'abord, par rapport au révisionnisme historique. Il se trouve que le chiffre de 6 millions a été employé à multiples reprises depuis les années 1919 dans des coupures de presse américaines, dans des journaux différents. Et donc, on a pu voir, hein, ça date quand même d'avant, je crois presque à la fin de la Première Guerre mondiale, je crois, des journaux américains, peut-être avec beaucoup de journalistes de confession juive, je ne sais pas, s'exclamaient de la mort de 6 millions de leurs frères, par-ci, par-là, alors dans des pays de l'Est, etc., etc. En tout cas, une apparition du chiffre de 6 millions dès l'année 1919 et à multiples reprises. Donc, si ça peut vous guider, vous intéresser peut-être par rapport au révisionnisme historique, ça serait quelque chose d'intéressant. La deuxième remarque, c'est par rapport au Talmud. Parce que vous avez balayé un petit peu en disant qu'il n'était pas nécessaire de s'intéresser au Talmud pour comprendre peut-être le racisme ou le suprémacisme de certains juifs. Et en fait, par rapport au Talmud, ce que je voulais relever, c'est qu'il y a quand même une particularité. Enfin, je ne sais pas à quel point vous avez pu le lire ou l'étudier ou vous y intéresser, mais moi, il se trouve que je m'y suis intéressé un petit peu. Sur un Talmud qui est mis en ligne par un professeur émérite d'études juives de l'Université de Californie, donc qui est tout ce qu'il y a de plus officiel et de validé par le rabbinat. Et donc, il se trouve qu'on peut trouver beaucoup de passages où on a ce qu'on peut appeler une double morale, c'est-à-dire, par exemple, tu ne voleras point, sauf si ton interlocuteur non juif fait une erreur. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut voler, hein. Tu ne tueras point. Sauf si tu peux t'arranger pour affamer ton adversaire. Alors là, c'est permis. Et effectivement, c'est une particularité, donc cette double morale qui est présente sur beaucoup de points, qu'on ne va pas, je pense, hein, enfin, on fait souvent la critique des catholiques intégristes ou de l'islam intégriste. C'est une double morale qu'on ne va pas retrouver dans le catholicisme, dans l'islam, etc. C'est quelque chose de vraiment très particulier qu'on peut trouver dans le judaïsme, enfin en tout cas dans le talmudisme. Voilà. Donc c'était un élément de réponse que je voulais apporter par rapport à peut-être l'origine donc qui serait talmudique d'un certain suprémacisme. Merci.
Bon, concernant le chiffre de 6 millions apparu en 1919, je vous laisse. Vous avez probablement des documents, mais enfin, à ma connaissance, il n'y a jamais eu, disons, de pogrom, enfin des massacres. Les plus grands massacres de juifs qu'il y a eu, mettons à la fin du 19e siècle, par exemple le pogrom de Kishinev en Russie, je crois qu'il avait fait 5 000 morts ou 10 000, enfin, Je veux dire, je comprends pas qu'on puisse sortir un chiffre de 6 millions en 1919, puisqu'il n'y a jamais eu, enfin, à ma connaissance, il y a eu des pogroms en Russie, notamment, enfin, les plus forts, mais qui portaient sur quelques milliers de juifs. Donc, franchement, mais vous avez eu les documents. Ceci dit, le chiffre de 6 millions a été établi par le tribunal de Nuremberg. C'est-à-dire que c'est ça l'origine du 6 millions. Il a été établi au moment du jugement de Nuremberg et ils ont dit ce chiffre-là, c'est les conclusions du tribunal de Nuremberg sont définitives et inattaquables. C'est-à-dire on en a fait comme une sorte de, comment dire, de loi suprême. Voilà. Et c'est, enfin, il me, enfin, moi, c'est, d'après moi, en tout cas historiquement parlant, ce que j'ai lu, c'est ça l'origine du 6 millions. Et c'est pour ça, enfin, et c'est de là qu'est parti ce chiffre absolument, voilà, comme sacré. Voilà. Bon, maintenant, si vous voulez, on va parler des religions. Ok, le Talmud a écrit, et on trouve dans le Talmud des idées comment dire, de domination, etc. Mais moi, je vous rappelle une chose. Prenons les chrétiens. Dans l'Évangile, c'est une religion d'amour. Mais vous voulez que je vous rappelle ce qu'ont fait les chrétiens? Les chrétiens qui sont arrivés en Amérique, toute la disparition de civilisations entières qui ont été massacrées, l'esclavagisme, des millions de Noirs déportés, enfin le colonialisme au nom de la civilisation chrétienne. Écoutez, franchement, quand on regarde, si on regarde les textes, ok, alors là, à ce moment-là, oui, le texte, mais regardons la pratique des chrétiens. Et là, excusez-moi, mais alors s'il y a une religion qui a massacré, enfin, qui a commis les plus grands massacres depuis 5 siècles à une échelle absolument démentielle, ben, c'est bien au nom, ou en tout cas les représentants de cette religion chrétienne.
Merci. La question étant, est-ce que ils se sont appuyés sur leurs textes pour justifier ces massacres d'un point de vue moral notamment?
Vous parlez de qui?
Pardon. Ce que je voulais dire, c'est que je suis tout à fait d'accord avec vous. On m'a redonné le micro, donc j'en profite très brièvement. Les chrétiens qui ont commis ces massacres, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils s'appuyaient sur leurs textes. Et c'est là la différence que je voulais faire, c'est qu'effectivement, notamment ce que j'ai pu lire dans le Talmud par rapport à cette double morale, c'est quelque chose qui n'est non pas une dérive de certains individus qui décident à un moment de sortir complètement de leur religion. Parce que, en fait, ils sortent de leur religion pour faire absolument n'importe quoi, mais que c'est un prémacisme, un racisme, si vous voulez, qui est inscrit au niveau d'un texte qui, le Talmud, est considéré, malgré son statut de, voilà, argument entre rabbins, etc., c'est un texte qui est considéré comme sacré par les juifs religieux. Donc c'est là que c'est intéressant, voilà.
C'est complètement bidon, excusez-moi d'utiliser ce terme qui me vient comme ça à l'esprit, parce que les Juifs ont très bien, le Talmud date d'il y a 2000 ans et ont cette idéologie raciste, etc., bon, et de suprématie. Mais est-ce qu'ils l'ont appliqué pendant 2000 ans? Non. Voilà. Donc en fait, le texte a existé. Et après, qu'est-ce qu'on en a fait? Voilà. Donc c'est pas ces Juifs qui étaient dans tous les, enfin, là où ils ont vécu. Est-ce qu'ils ont eu la possibilité d'appliquer? Non. Très bien, ils ont eu ces lois. Et après, qu'est-ce que ça peut me faire? Par contre, les massacres commis par les chrétiens, c'est pas vrai, c'est pas le fait d'individus. C'est la papauté qui a envoyé les croisades. C'est les rois catholiques Isabelle la catholique qui a expulsé des centaines de milliers de juifs et de musulmans d'Andalousie. C'est des rois chrétiens qui ont. C'est les chrétiens espagnols qui, en dominant les Incas, etc., se posaient la question, est-ce qu'ils ont une âme de chrétien, etc. Non, non, je regrette. Ce n'est pas le fait. Ce sont ces civilisations qui se disaient chrétiennes qui ont fait tout ça. S'il vous plaît, on peut dire, on prend deux questions et on arrête.
Écoutez,
Allô?
Jacob, Bon, merci de votre réponse. On va conclure tout simplement.
Alors, on va conclure, hein.
Donc, écoutez, on vous remercie chaleureusement de cette conférence. Et je rappelle aux auditeurs, enfin, j'annonce aux auditeurs que donc dimanche prochain, ce sera la dernière conférence de l'année 2011 avec un libre journal. Et je vous laisse un mot de conclusion si vous le souhaitez. En tout cas, merci encore.
Ok, bon, j'ai eu un grand plaisir. J'aime beaucoup dialoguer, échanger parfois. Moi, je suis un passionné, donc le ton monte un peu. Mais je trouve que l'échange a été vraiment cordial, enfin, a été, comment dire, c'est très bien passé parce on a été respectueux. Voilà. C'est un très bel échange. Je vous remercie pour votre collaboration ici. Bonne soirée.
Très bien, et puis je vous signale que à peu près tous les auditeurs sont en train de vous remercier chaleureusement sur l'espace de discussion, puisqu'ils ont beaucoup apprécié de vous écouter. Donc merci encore à vous d'être venu.
Merci à vous tous, et puis à bientôt. Au revoir.